Je viens ici, je m'assois, je me dis potentiellement je peux détruire ma carrière.
Humoriste, comédien, mais surtout fin critique de la politique et de la société actuelle, Jérémy Ferrari est mon invité cette semaine.
La base de ce que je suis, c'est être un créateur. Je suis sincèrement passionné par mon métier. J'ai toujours voulu faire ça. Je crois que la vérité n'existe pas.
Pourquoi cette objectivité te tient tellement à cœur ?
Parce que c'est la promesse que j'ai faite aux gens.
Il quitte l'école à 16 ans, décide de se consacrer à sa passion pour le théâtre et enchaîne les petits boulots pour s'en sortir.
T'es jamais au plus haut niveau. Le problème, c'est que les idées sont infinies. Les objectifs sont infinis, les déceptions sont infinies et c'est sans fin. À quel moment je vais juste être un peu fier ?
Jérémy doit aussi affronter les démons qui menacent son succès. L'addiction, l'alcoolisme et la dépression.
La psychiatrie en France, c'est une catastrophe.
Quels sont les troubles dans ta tête ?
Je suis malade alcoolique chronique. Je vais mourir, j'ai pas envie de mourir. Je sais très bien ce qui va se passer. J'ai fait le deuil, je sais que je ne peux pas boire un verre. Là, tu me sers une bière, c'est terminé. Dans 8 heures, je suis encore là. Si tu veux te sortir de la dépendance, il n'y a que toi qui peux t'aider.
C'est un combat encore ou pas ?
Bien sûr, ça sera un combat toute ma vie.
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy, bienvenue sur InPower.
Merci Louise.
Écoute, je suis très heureuse de te recevoir, d'autant plus que là, j'ai un peu tous tes spectacles en tête, parce qu'hier soir, tu vois, j'ai bien fait mon travail.
Je ne crois pas une seconde que tu as regardé tous les spectacles.
Alors non,
ça représente 9 heures sinon. Donc.
Ce serait mentir que de dire que je les ai tous vus, mais j'ai vu ton dernier spectacle, des extraits des précédents. Et franchement, la première question que je me suis posée, c'est qui était Jérémy quand il avait 8 ans ?
C'est une bonne question. Comment j'ai été quand j'avais 8 ans ? T'en sais quoi ça comme classe, 8 ans ?
C'est CE1, CE2 ?
Alors CE1, CE2, les problèmes à l'école commencent un peu déjà. Je me rappelle que j'ai une prof que j'aime bien en CE2. Madame Fachin, putain, je crois que j'aime pas.
T'as une bonne mémoire.
Ouais, je sais pas comment ça m'est revenu. Je vois son visage en plus. Elle, avec elle, ça se passe bien, elle est très gentille, mais je sais que je commence... En primaire, je m'en sors encore plutôt bien à l'école. Ça va commencer vraiment à partir en vrille, en sixième, mais... CM1, CM2, ça commence un petit peu à vaciller. Mais en CE2, ça va. Je crois que j'ai des bonnes notes. En CM1, je vais démarrer le théâtre au collège. Donc, on n'est pas loin du début de mes pas sur scène. Je vis à Manchester. On vit au-dessus, donc dans un quartier populaire de Charleville-Mézières. Mes parents, ils ont une petite épicerie dans ce quartier. On vit dans l'appartement juste au-dessus.
Manchester.
Ça s'appelle Manchester, ça n'a rien.
Ce n'est pas en Angleterre, c'est en France. Charleville-Mézières, ça sonne pas très british.
Ça serait très classe si j'avais grandi en Angleterre. Ça serait très chic, mais non.
Okay.
Non, c'est pas chic du tout. Et voilà, je crois que je commence déjà, je fais pas mal de sport déjà. Je fais du judo déjà, mon père m'a inscrit au judo.
Pourquoi ça part en cacahuète en sixième ?
Parce que je décroche en fait. Je décroche vraiment de l'éducation nationale. Je décroche complètement. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi. Je commence à regarder l'éducation nationale avec un certain recul en fait. Et je comprends pas le but. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on m'apprend ces choses. J'ai encore de l'intérêt par exemple pour la biologie, parce qu'il y a un truc très concret, on m'apprend comment les choses fonctionnent, comment les choses vivent, donc j'y vois un intérêt. Le français parce que j'y vois un intérêt, je trouve ça intéressant d'étudier des textes, etc. Je vais décrocher aussi un peu plus tard quand je vais commencer à plus forcément être d'accord avec les analyses de textes de mes professeurs, donc là je vais commencer et que je sens bien qu'il faut que je sois d'accord avec leur analyse, donc là je vais reperdre le but, donc au fur et à mesure le français je vais décrocher. Mais à ce moment-là, les mathématiques, je comprends pas pourquoi on m'apprend ça. L'histoire, je trouve que les cours sont extrêmement décousus et très superficiels. Donc en fait, je comprends pas pourquoi on me l'apprend de cette manière. Le sport, je trouve ça naze. Et en tout cas, j'aime bien le sport, mais je trouve que ce qu'on fait en sport est pas très intéressant. Donc voilà, en fait, je m'ennuie. En fait, je trouve pas ça. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps.
Et du coup, est-ce que tu essayes de compenser en te formant toi-même?
Non, pas à cet âge-là.
C'est quoi, du coup, ta réaction, ton comportement ?
C'est assez étrange, parce que là, en réalité, je prends du recul là-dessus. C'est-à-dire que là, j'intellectualise le truc. C'est-à-dire que maintenant, je l'analyse. Mais au moment où je le vis, c'est pas comme ça que je le vis. Moi, en fait, l'école, pour moi, est une lutte interminable contre le sommeil et l'ennui. Donc, en fait, je ne vis pas ça en me disant « je ne comprends pas pourquoi on me l'apprend ». Je vis ça en me disant « je n'arrive pas à me concentrer pour écouter, je n'arrive pas à retenir, je n'arrive pas à comprendre. Et réfléchir et rester éveillé pour écouter me demande un effort hors du commun. » C'est maintenant que j'ai intellectualisé, mais à l'époque, je ne le vois pas comme ça. Plus tard, oui. Mmh. quand j'arrive en seconde, etc. J'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle marque le point, elle marque le point de rupture entre moi et l'éducation nationale. Il y a un cours de français, donc je suis en seconde, donc j'ai redoublé ma troisième parce que je me suis limite battu avec mon professeur de maths, enfin bon, c'est pas qui était violent avec les élèves. Je précise qu'il a pas pris une chaise au visage pour rien.
Tu t'es pas fait virer?
Si. Si, okay. Si, je me suis fait virer. Donc après, j'ai changé de collège, etc. Et puis, j'arrive péniblement en seconde générale. Et en fait, il y a un cours de français et il y a une espèce de truc autour d'un débat. Alors on me dit, on va vous faire débattre. Alors là, moi, ça me stimule beaucoup parce que ce qui commence à germer dans ma tête, c'est que on nous laisse pas réfléchir par nous-mêmes. Et ça m'agace profondément. En fait, je comprends pas en fait de lire un livre et d'avoir la prof qui nous explique ce qu'on a lu et la manière dont il faut analyser ce qu'on a lu. Donc du coup, quand on parle de débat, ça me stimule un peu plus. Je me dis, putain, ça c'est chouette, si on débat, c'est cool. Et alors, on nous dit, on va débattre autour de la peine de mort. Et la prof, elle dit, que vous soyez pour ou contre la peine de mort, on sera pas dans le jugement, on va vraiment débattre ouvertement. Je vais demander à tout le monde de ne juger personne pour laisser la parole libre. Je dis, waouh, je trouvais ça génial, quoi. Évidemment, je suis complètement contre la peine de mort, même à l'époque, mais je veux dire...
De se mettre à la place.
Je trouve ça génial de dire, c'est super, s'il y a des mecs qui sont pour la peine de mort, on va pouvoir discuter avec eux et savoir pourquoi ils sont pour la peine de mort. Parce qu'on est quand même encore en seconde, donc on est forcément encore influencé par sa famille, son éducation, etc. C'est des âges où on peut commencer peut-être à remettre en cause ce qu'on a appris chez soi. Donc, je trouve que c'est le bon âge pour commencer. On peut même commencer un peu plus tôt, à mon sens. Mais en tout cas, je me dis, je trouve ça cool. Donc, je me dis, ah, super, ça va être intéressant. Donc, et elle dit, bon, avant de commencer, en gros, l'idée, c'était d'abord on devait écrire quelque chose et ensuite débattre autour de ce qu'on avait écrit individuellement. Et elle dit, mais avant de commencer le débat, on va lire des textes de personnes pour vous aider, d'auteurs qui se sont exprimés sur la peine de mort. Il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre. Comme ça, ça va vous aider à voir comment est-ce qu'on argumente son avis, quel que soit cet avis. Super. Et alors, on lit un texte d'un mec qui est pour la peine de mort, qui est complètement nul, sans argument, totalement excessif. Enfin, je veux dire, faut pas refaire Saint-Cyr pour comprendre que le mec n'a pas d'argument, et surtout, il n'est absolument pas convaincant. Et on a un texte de Victor Hugo qui est contre la peine de mort, moi, personnellement, j'aime beaucoup Victor Hugo. Et donc, il raconte ce truc, je vais peut-être être un petit peu maladroit, non, mais je vais le raconter parce que c'est vieux, mais il y a une scène très connue de Victor Hugo où il est au Sénat et il lutte ardemment contre la peine de mort, et il a cette phrase où il dit aux députés présents, enfin aux politiques présents, il montre un crucifix au mur et il dit, comment pouvez-vous défendre la peine de mort alors que vous vous agenouillez tous les jours devant quelqu'un qui l'a subi? Un truc un peu dans le genre. Je m'excuse auprès des puristes, hein, la phrase elle est approximative, mais enfin c'est un truc dans cet esprit-là. Et donc évidemment très convaincant. Moi j'avais pas besoin d'être convaincu, encore une fois, j'étais évidemment contre la peine de mort, mais ce qui m'a gêné à ce moment-là, c'est je me suis dit, mais ils auraient pu trouver quelqu'un. Malheureusement, il y a des gens qui ont des arguments même pour défendre les pires choses. Et ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est de mettre un mec qui avait vraiment des arguments pour défendre la peine de mort. Parce que là, on pouvait débattre. Parce que là, le problème, c'est que déjà, ça induisait quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, on était en train de nous dire ce qu'il fallait penser dans la manière de présenter le texte, dans la manière de lire, dans le choix des auteurs. Et puis, n'importe quel mec ou fille un petit peu articulée avait bien compris ce qu'il devait dire. Ce qui fait qu'on a jamais eu, finalement, le fond de la pensée des gens. Et là, pour moi, ça a été un point de rupture. J'ai dit, en fait, vous nous vendez un débat, mais en fait, vous voulez pas de débat. Vous voulez qu'on vous dise qu'on est contre la peine de mort. Alors, c'est pas grave. Pour moi, personnellement, c'est pas grave. Ça n'aurait rien changé à ma manière de penser. Mais en fait, vous ne voulez pas qu'on débatte. Donc, j'ai marqué sur une feuille, je suis contre la peine de mort, et j'ai rendu ma feuille. Et elle me dit, mais c'est ce que vous voulez entendre. Donc, je vous mets ce que vous voulez entendre. Donc, je veux 20 sur 20. Parce que de toute façon, notre avis, vous en foutez. Vous voulez juste entendre qu'on est contre. Bon, ben voilà, on est contre.
Donc, pour toi, l'école devrait nous laisser penser ce que l'on veut.
L'école doit nous laisser exprimer ce qu'on veut. C'est ça l'éducation. C'est de dire, ok, qu'est-ce que t'as dans la tête? Explique-nous ce que tu as dans la tête. Et on va essayer de comprendre et de décortiquer. Et si on sent qu'il y a une pensée qui peut être dangereuse pour la personne ou pour les autres, ou qu'on peut juger extrême ou autre, eh ben on débat avec la personne. On écoute ce qu'il a à dire. Parce que c'est pas en bâillonnant que vous changez les idées, c'est pire. Si vous bâillonnez les gens, si vous leur dites « il ne faut absolument pas penser comme ça, on ne te laissera pas dire ça », vous nourrissez ce qui a généré cette pensée au départ. Je pense que le travail de l'éducation, effectivement, c'est, en tout cas de l'éducation nationale, je pense que c'est de laisser les jeunes s'exprimer. Encore une fois, c'est pas en les bâillonnant et c'est pas en les forçant à penser quelque chose qu'on l'intègre dans leur tête.
Je vais te poser une question que je me pose moi-même réellement, en tout cas sur laquelle j'essaye de me faire un avis tranché. C'est la question de savoir si on accueille ou non des extrémistes politiques sur les médias. Parce qu'il y a deux écoles. L'école qui, de ce que tu me dis, en tout cas j'ai l'impression, est plus en adéquation avec tes propos, à savoir si on ne leur donne pas la parole, c'est pire, parce qu'en plus ça leur donne encore plus de grain à moudre pour se faire entendre et pour se victimiser. Et l'autre école que j'entends aussi, qui est pas mal défendue par les gens qui viennent sur ce podcast, à savoir, ce n'est pas, enfin, finalement la haine de l'autre n'est pas républicaine, je n'ai pas envie de donner de la visibilité à des personnes qui sont finalement une menace pour la démocratie.
Il y a des questions où il n'y a pas de vérité, parce qu'elle est propre à chacun. Elle est propre au choix de chacun et elle est propre à la manière dont les gens voient leur liberté à eux. Toi, tu as un podcast. Si tu décides d'inviter des extrêmes politiques, comme le Front National, c'est ton droit et c'est ton choix. C'est-à-dire, c'est pas illégal et c'est ton droit. C'est ta liberté à toi. Il y a des médias qui décident de laisser la place à tout le monde et d'autres qui décident parce que ça va à l'encontre de leurs fondamentaux, décident de ne pas le faire. Et je pense que la vérité, elle est là. C'est-à-dire que je pense que ce qui serait antidémocratique, c'est d'imposer une chose à une personne. Les médias doivent être libres d'inviter qui ils veulent. Et je pense que c'est ça, la démocratie. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça serait antidémocratique de forcer les gens à inviter les gens, et ça serait antidémocratique d'empêcher les gens d'inviter les gens. Et après, les gens sont responsables de leurs propos. Si un extrême politique a tout un coup un discours qui dérape, c'est à la justice de les rattraper. Donc je pense que la liberté, malheureusement, c'est très difficile parfois de faire cohabiter toutes ces idées en même temps. Ce qui manque dans cette société, c'est la nuance, à mon sens. Ce qui manque à cette société, c'est la nuance. C'est très difficile, la nuance. Parce que la nuance, c'est accepter que deux idées contraires puissent coexister et qu'une vérité puisse être entre les deux. Et qu'une vérité puisse être différente d'une minute à l'autre. Donc c'est pour ça que ce monde est compliqué. C'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes dans ce monde. C'est parce que les gens veulent des choses tranchées. Je crois que souvent, l'intelligence et la vérité, c'est entre les deux. Je crois que la vérité n'existe pas. Je pense qu'une vérité change. Le monde est en permanence en train de se mouvoir. Là, on est enfermé là dans une pièce. On a éteint nos téléphones. Si ça se trouve, on est en train de penser quelque chose. On va rallumer nos téléphones dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et on changera d'avis parce que il y aura un fait, quelque chose qui se sera déroulé qui va nous démontrer l'inverse. Donc moi personnellement, qui suis évidemment quelqu'un qui lutte contre toute forme d'extrémisme, de rejet, etc., etc. Au fond de moi, j'ai envie de te dire. Ne leur laissons pas la parole. Mais ça serait aller à l'encontre de ce que je défends. Donc c'est ça aussi, je crois, la responsabilité de chacun. C'est quand on prend la parole, quand on décide de faire un métier public, quand on décide de faire un métier de média et de s'exprimer auprès des gens, je pense qu'on a la responsabilité de mettre de côté nos convictions. Je pense que on peut exprimer nos convictions, mais elles ne doivent pas prendre le pas sur la manière dont on va gérer notre discours auprès des gens.
Mais est-ce que ton travail, c'est pas finalement d'exprimer toi tes convictions justement par le biais de l'humour et de la scène?
Je le fais, mais en réalité, en réalité, ça ne se voit pas sur scène. Tu sais, des fois sur scène, je dis, je vous donne jamais mon avis personnel. Je le dis dans le spectacle actuel, et les gens ils rigolent quand je dis, je vous ai jamais donné mon avis personnel. Ça les fait rire, mais en vrai, je ne donne pas vraiment mon avis personnel. On le comprend, mon avis personnel. Évidemment, on le comprend, on le sent, mon avis. Je donne mon avis, mais en réalité, je me fais quand même violence pour essayer d'être entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que selon notre éducation, selon ce qu'on a vécu, selon nos drames personnels, selon nos failles, selon nos expériences, on a des choses sur lesquelles on va être plus sensible que d'autres. Et on peut perdre en lucidité et on peut perdre en objectivité. Voilà, merci. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'on n'a pas forcément conscience. Et je pense que dans nos choix, on doit le faire. Par exemple, si je prends l'exemple de anesthésie générale, je parle sur scène de mon alcoolisme. Je suis alcoolique. J'ai un problème de dépendance de manière générale avec l'alcool et toute forme de drogue que je peux prendre. Donc je sais très bien que je ne vais pas être objectif sur l'alcool. Ce qui fait que, par exemple, quand j'ai traité de la santé, j'aurais très bien pu faire un truc sur le lobby de l'alcool. J'ai un dossier comme ça sur le lobby de l'alcool dans mon bureau. J'avais de quoi défoncer les lobbyistes. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai senti que je me plaçais en victime. Parce que je me sentais victime de ce lobbyisme. Donc, je ne vais pas être objectif. Et mon rôle, c'est pas d'aller, c'est pas de monter sur scène pour exprimer mon truc. Ça aurait peut-être été très bien, peut-être que, mais quand même, j'ai senti que j'allais pas être complètement objectif. Donc, j'ai pas traité le sujet.
Pourquoi cette objectivité te tient tellement à cœur ?
Parce que c'est la promesse que j'ai faite aux gens.
Comme tu dis, on évolue. Enfin, tu vois, tu pourrais, je te pose un tel retranchement, mais tu pourrais choisir de faire un spectacle engagé en disant, bah moi, j'ai été victime de ça, et justement parce que je ne veux pas que ça arrive à d'autres, je vais vous montrer les dommages.
Mais il y a le monde de l'injustice, il est vaste. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi tel sujet plutôt qu'un autre, pourquoi tel truc, bah, il faut faire des choix. Alors pourquoi tel sujet, des fois parce que j'arrive pas à le rendre assez drôle, parce que je peux manquer d'objectivité ou je sens que je vais manquer d'objectivité. Là, je fais un spectacle qui dure 3 heures, c'est déjà très long. Il y a tellement de choses à dénoncer que il faut faire des choix. C'est comme ça. C'est pour ça que je fais des spectacles à thème. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, pourquoi tu traites pas de ce sujet ? Attends. Est-ce que t'es sûr que j'ai pas traité ce sujet ou est-ce que je l'ai pas traité dans un spectacle d'avant, dans un spectacle d'avant? Et puis c'est pas parce que je le traite là pas, que je le traite pas maintenant, que je vais pas le traiter plus tard. J'essaie de traiter absolument de tous les sujets. Mais de toute façon, tu dois faire des choix. Donc dans ces choix, je regarde est-ce que c'est suffisamment drôle, est-ce que c'est suffisamment documenté et est-ce que je vais être complètement objectif. S'il y a un de ces trois trucs qui ne répond pas, potentiellement ça va être un sujet que je vais sacrifier. Ça veut pas dire que j'en parlerai pas plus tard. Mais là, en tout cas, sur ce spectacle, j'ai senti qu'il fallait pas que j'en parle. Et je vais te dire. Peut-être que ça aurait quand même été drôle et que sur le papier, peut-être même en le voyant, peut-être que tout le monde se serait dit c'est très objectif et c'est très drôle, mais ça veut pas dire qu'en réalité ça aurait été objectif.
Quand est-ce que tu commences à t'intéresser à la politique ?
Quand est-ce que je vais m'y intéresser ou quand est-ce que je me suis mis à m'y intéresser ?
Quand est-ce que tu t'es mis à t'y intéresser ? Parce que, enfin, à mes yeux, tous tes spectacles ont une dimension politique.
Je me suis pas intéressé à la politique. Je me suis intéressé à la vie des gens. Et quand les sujets que je traitais étaient directement ou indirectement liés à la politique, alors je m'intéressais à la politique. En gros, quand j'ai commencé à, par exemple, sur le spectacle sur la religion, j'ai pas vraiment parlé de politique dedans parce que c'est pas que je l'ai évité, c'est que dans mes recherches, ça ne s'y est pas prêté. Ensuite, vente de pièces à Beyrouth. Spectacle sur la géopolitique. Bon, j'avais pas vraiment le choix, donc je m'y suis intéressé parce que j'avais pas le choix. Et sur Anesthésie Générale, je m'y suis intéressé parce que c'est pareil, parce que le spectacle Anesthésie Générale, c'est d'abord une dénonciation du système de santé français qui est abandonné par le gouvernement. Donc là, j'avais pas le choix. C'est parce que j'ai pas le choix. Parce que fondamentalement, la politique ne m'intéresse pas. Parce que elle peut pas m'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il se passe quelque chose. En politique, il ne se passe rien. Pour moi, la politique est un amas de choses où il ne se passe rien, où juste on essaye de maintenir le système tel qu'il est sans qu'il bouge. Pour moi, c'est ça le but des
politiques. La politique, pas les politiques, mais de la politique en soi, étymologiquement, c'est la vie de la cité et c'est au contraire ce qui régit, tu vois, notre quotidien.
Et est-ce que tu ressens ça, toi? Parce que moi, je ressens plus des gens qui essayent de faire en sorte que rien ne bouge plutôt que de personnes qui veulent faire bouger les choses. Après, il y a des contre-exemples, hein. Il y a quand même des choses de temps en temps qui se passent. Il y en a plus d'ailleurs de mauvaises que de bonnes. Mais j'ai toujours un regard très naïf sur la politique. J'attends toujours ce mec ou cette femme qui va arriver et qui va vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière et qui va changer vraiment les choses et qui va arriver avec des idées vraiment novatrices, audacieuses, qui va s'élever, qui va se battre avec une espèce de flamme dans le cœur, mais je crois que ces gens-là ne peuvent pas accéder au poste politique influent. Je pense qu'il y a tout un filtre et tout un système qui fait que ces gens sont laissés devant la porte. Donc moi, je pense que la politique n'existe pas. Je pense qu'il y a des mecs à des postes qui doivent tenir un système qui est avant tout régi par la diplomatie et donc par l'argent. Je pense qu'il n'y a plus de politique, il y a vraiment une politique indépendante. Je pense qu'il y a un ordre mondial qui est l'argent et qu'elle régit tout. L'argent régit la diplomatie entre les pays. Quand des fois on dit mais comment ils peuvent accepter de parler à tel pays, comment ils peuvent demander leur avis à tel pays, très 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 souvent la réponse c'est l'argent. Pourquoi on accepte certaines décisions, c'est l'argent. Donc ça peut paraître très démago ce que je dis, hein, mais j'emmerde les gens qui me diront que c'est démago parce qu'en réalité, tu peux retourner les trucs dans tous les sens, tu verras que c'est toujours l'argent qui décide. Et de temps en temps, tu sais, pour moi, je dis ça parce que je suis quand même quelqu'un qui creuse vraiment beaucoup ces sujets et souvent j'en reviens à un truc très simple. Tu sais, souvent, je pars du principe que c'est l'argent qui décide. Par exemple, vente de pièces à Beyrouth, c'est ça mon axe de départ. Est-ce que les guerres modernes, donc on va dire après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'elles sont d'abord régies par l'argent ? Donc j'étudie le sujet pendant deux ans ou trois ans, et après j'arrive et je te dis, oui, c'est d'abord régi par l'argent. Donc c'est des magots pour quelqu'un qui n'a pas étudié le sujet, mais pour le coup, ça fait 15 ans que j'étudie quand même des sujets de manière assez profonde, et ça en revient toujours à ça.
Est-ce que tu réfléchis à des pistes de solutions quand tu découvres les problèmes que tu analyses? Enfin, parce que personnellement, moi, j'ai un biais où une fois que j'ai constaté un problème, j'ai du mal à pas me demander, ok, mais quelles seraient les potentielles solutions? C'est-à-dire que l'argent gouverne le monde. Ok, quelle est la porte de sortie?
Je pense que la solution se trouve chez les gens. C'est nous qui avons l'argent. C'est la masse qui a l'argent. Il y a quelques mecs qui ont...
C'est les 1% qui ont l'argent.
Oui, mais c'est les 1%, ils ont l'argent grâce aux autres. C'est-à-dire que l'argent des 1%, c'est l'argent des millions et des millions et des millions d'autres gens. Donc j'ai lu une phrase comme ça, elle est pas de moi, je ne sais plus de qui elle est, mais il y a quelqu'un qui comparait le bulletin de vote à un achat, et oui. Il a plutôt raison, je sais plus d'où, c'est une phrase assez
on
commune.
Vote avec notre carte de crédit, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est que je pense que ce qu'il faut travailler, c'est la mentalité. C'est pour ça que je pense que l'art a une place importante et qu'il faut se battre pour la liberté d'expression. Je pense que l'éducation a une place importante. C'est pour ça que dans les prochains sujets peut-être de mes spectacles, j'essaierai peut-être de mettre sur l'éducation, l'écologie évidemment, parce que c'est une base sur laquelle il faut quand même compter, hein, parce que si ce monde brûle, ben, il y aura plus de soucis, hein, ceci dit. Donc ce que je veux dire, c'est que je crois pas qu'on puisse changer les politiques. J'ai du mal à croire à ça. Après, bon, moi je reste quelqu'un d'optimiste, hein. Peut-être qu'un jour on va avoir un mec qui va péter le plafond de verre et qui va vraiment arriver à changer les choses. Mais
je pense que c'est le problème, justement, cette conception de l'homme ou de la femme providentielle. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui le changement viendra d'une seule personne. C'est que, historiquement, on a eu ces figures fortes, mais parce qu'on était dans des systèmes qui n'étaient pas démocratiques. En démocratie, je me demande si c'est pas la force de plusieurs, enfin voilà, que ce soit d'un gouvernement, que ce soit des assemblées, que ce soit d'une démocratie participative, qui finalement aura plus d'impact que de croire en une seule personne.
Mais ça n'existe pas. Il y a que des partis. C'est bien le problème des partis politiques. Je pense pas que tous les hommes politiques sont des gens pourris ou des gens corrompus. Il y en a beaucoup, mais pas tous. Moi, j'ai l'occasion parfois de croiser des politiques qui sont des gens brillants et même des gens bien parfois. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, en fait, c'est que regarde ce qui se passe. T'as un homme politique qui arrive en interview. Il se retrouve en face de Léa Salamé ou de je sais pas qui.
Que j'ai reçu sur ce podcast. Je vous invite à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas encore écouté.
Tu vas pas faire la pub des autres pendant le mien. Ça, c'est Internet nous a offert ça, c'est formidable. T'as un mec qui arrive, et puis en 2019, il sort, on va l'interroger sur 5 sujets, et il sort 5 avis différents. Et ce mec fait partie d'un parti politique. Et son parti politique arrive au présidentiel, et donc le chef de son parti devient président, et dit quelque chose. Et puis tout à coup, ben, 2 ans après, le président de la République va donner aussi son avis sur les 5 mêmes sujets, mais va donner un avis différent. Et après, vous allez réinterroger ce mec qui fait partie de ce parti, et vous allez lui reposer des questions sur cet avis. Et vous allez pouvoir faire des montages très très drôles, où vous allez voir le mec qui se contredit et qui ment sur ce qu'il a dit. Parce qu'à partir du moment où tu adhères à un parti politique, tu dois concéder tes paroles publiques.
C'est pas toi qui disais que la vérité change toutes les 15 minutes ?
Si, c'est ce que je disais. C'est ce que je dis souvent.
Bah, ça peut être le cas de cette personne.
Alors effectivement, ça peut être le cas de cette personne, mais... Si c'est cohérent, ça se justifie. Si c'est justifié, ça n'est pas drôle. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'humour, parce que je suis humoriste, donc pour moi, quand ça devient drôle, c'est que c'est absurde. Si c'est absurde, c'est que ça n'est pas justifiable. Et puis, encore une fois, quand je dis qu'une vérité peut bouger, peut se... Ça c'est une évidence, mais enfin on est sur quelque chose évidemment de très large et de très ça, c'est limite philosophique, mais il y a quand même des choses sur lesquelles quand on fait des promesses à des gens et que un an après on dit totalement l'inverse, c'est quand même difficile de justifier. Non mais c'est un fait. Tu rentres dans un parti politique. Et puis on parle même pas de ceux qui peuvent critiquer Macron, qui finissent finalement dans son gouvernement, tous ceux qui disent un président comme lui ça serait terrible, tatatitatata, qui sont dans son gouvernement. Donc je pense pas que la politique ce soit quelque chose de facile, et je quand on les regarde et tout, je pense parfois qu'ils n'ont même pas trop le choix, hein, mais c'est pour ça que moi je ne crois pas forcément en un homme ou une femme providentielle, mais croire que c'est un groupe qui changera les choses, oui, mais il sera porté par quelqu'un, et donc c'est pour ça que je suis d'accord aussi avec toi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que je pense que d'abord, c'est les gens qui doivent faire changer les choses. Parce que comme de toute façon, les politiques doivent être élus et préserver le système financier, le pouvoir, il est quand même dans le nombre. Donc a priori, c'est plutôt nous qui avons le pouvoir. Le problème, c'est de faire changer les mentalités et d'essayer de faire réfléchir les gens. C'est ça qui est difficile.
Sur quoi t'as changé d'avis récemment ?
Je vais toujours parler avec des gens qui sont de mon avis et des gens qui sont pas de mon avis. Et quand j'ai pas d'avis, je prends les deux. Tu vois, ça c'est très très important de faire ça.
Et en faisant des recherches sur ton spectacle, ton dernier spectacle, ça peut être un précédent aussi, mais est-ce que t'as changé d'avis en cours de recherche justement ? Parce que le risque, c'est peut-être si tu as déjà l'angle en tête de où tu veux aller, ce que tu veux dire et où tu veux emmener les gens. Je dis ça parce que moi j'écris, c'est un peu la même chose, tu vois, c'est on sait où on veut aller. Et donc, on a tendance à aller chercher des informations qui vont confirmer notre pensée. Est-ce que toi, en écrivant Anesthésie Générale, à un moment, tu t'es dit, ben, en fait, je pensais ça de prime abord, mais après recherche, finalement, ben, je trouve que non, j'ai changé d'avis et je vais pas le présenter de cette façon.
Ouais, bien sûr, tout le temps. Mais ça, sur tous les spectacles. Hein. Mais parce que je le sais. En fait, moi, en plus, je suis pas allé à l'école. Je suis pas quelqu'un de...
T'es pas allé à l'école. T'as arrêté quoi ? Après le bac ?
Non. J'ai arrêté à 16 ans. Donc, je...
Ah bon, on reviendra là-dessus après, alors. Mais finis ton point.
Mais donc, en fait, je suis toujours vierge des sujets que je traite. Je n'y connais rien. Mon prochain spectacle sera très certainement sur l'écologie. J'ai commencé à rencontrer des gens. Je suis allé voir Hugo Clément. Tu vois, c'est le premier, parce que j'ai aussi
reçu sur ce podcast. Si jamais vous l'écoutez l'épisode, voilà, très bon épisode.
tu vois, je suis allé le voir et... Il m'a dit, t'en es où ? J'ai dit, j'en suis absolument nulle part. Je sais même pas comment je peux... C'est quoi l'écologie ? J'ai commencé comme ça. Donc moi, je commence toujours comme ça, mes trucs. Donc évidemment que j'ai une idée dans la tête. Ce dont je m'aperçois surtout, c'est que c'est plus complexe que ça. Tu vois, par exemple, au tout début, quand j'ai commencé mes spectacles sur la géopolitique, etc., j'avais des convictions. Je pensais qu'il y avait une personne, par exemple, qui décidait de choses. Quand je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas si simple que ça. Je me suis aperçu qu'en fait, c'était plutôt des systèmes qui parfois, d'ailleurs, faisaient en sorte que chaque personne de ce système pouvait se convaincre qu'elle n'était pas responsable de ce qui se passait. Ça, je trouve que c'est assez dingue. Moi, j'ai parlé avec plein de gens qui ont des postes extrêmement importants où ils prennent des décisions parfois terribles, et j'ai parlé avec des gens convaincus qu'ils n'avaient que c'était pas leur faute, et convaincus.
Et tu leur écris, tu leur dis quoi ?
Je les juge pas, sinon ils parlent pas avec moi. Et puis de toute façon, je suis pas là pour juger les gens. Sur vente de pièces à Beyrouth, j'ai parlé avec des gens que
je peux pas les nommer,
que j'inviterai. Ah non, bah non, que j'inviterai pas à Nouvel An, quoi. Des gens avec qui j'étais en profond désaccord, qui pouvaient même me susciter un certain mépris. Mais mon travail, c'est presque un travail de journaliste. Je suis pas là pour les juger, je suis là pour les écouter. Donc, alors j'ai eu des témoignages qui font froid dans le dos, hein, où je suis en train de manger avec le mec et il me sort des trucs. Et je me dis, oh,
tu peux dire si t'as sorti sans le nommer, hein.
Bah non. Des gens sur, j'ai travaillé sur la guerre, donc j'ai travaillé avec des militaires de plein d'armées différentes, avec des mercenaires, avec des gens qui me disaient droit dans les yeux, moi j'ai choisi ça parce que tuer des gens légalement me procure du plaisir, quoi. Voilà, mais
pourquoi ils acceptent de te rencontrer, tu penses?
En mangeant un poulet frite. Pourquoi ils acceptent de me rencontrer? Parce que ils savent que je vais pas les juger, ils savent que je vais pas les balancer, et puis parce que ce qui est assez désarmant, c'est que ça fait du bien à tout le monde de parler, en fait. Même les gens les plus terribles, les plus effroyables, ça leur fait du bien de parler. Pourquoi des serial killers acceptent de passer puis l'ego aussi. Parler de soi et tout, c'est cool. Comment tu fais pour avoir tous ces invités? Il y a de l'ego, mais faut dire la vérité, faut être honnête. Les gens, ils aiment bien quand même parler d'eux, etc. Donc, et d'ailleurs, faut faire aussi attention à ça, l'ego, parce que ça peut déformer des témoignages. Faut faire un peu attention, parce que les gens sous l'effet de l'ego peuvent exagérer, amoindrir, bon, voilà, plein de choses. Mais c'est passionnant de découvrir l'âme humaine. Même les âmes les plus sombres, c'est passionnant.
Quelle est la part d'ego dans ce que tu fais ?
Bon, elle est énorme. Je suis complètement mégalo. Je veux dire, je monte tout seul sur scène. Je produis moi-même mes spectacles. Je parle moi-même avec la personne qui va mettre mon nom en énorme sur des affiches de 8 mètres. Enfin, je veux dire, il faut totalement être honnête avec soi-même. C'est surtout mon parcours. J'ai décidé tout à coup de tout faire, d'avoir des sociétés dans tout ce qui entoure de près ou de loin ce métier, de me produire. J'ai une grosse équipe autour de moi, que des gens que je connais depuis des années en qui j'ai 100% confiance, etc. Enfin, je travaille vraiment pas tout seul, j'aurais jamais pu monter tout ça tout seul. Mais ça reste mégalomane, je veux dire.
Pourquoi t'es mégalomane, je pense ?
Les mêmes trucs que tout le monde, hein, les trucs affectifs, machin, je sais pas. Je pense que la mégalomanie, c'est lié à plein de choses. Il y a jamais une raison, il y en a toujours plein. Parce que par exemple, je suis sincèrement passionné par mon métier. J'ai toujours voulu faire ça, depuis petit, tu vois. Et quand j'étais petit, je voulais être une star, mais si on m'avait dit tu le seras pas et tu vas juste vivre de ton métier, je l'aurais fait quand même. Donc je sais que je ne suis pas de base, je ne suis pas habité par l'ego. C'est pas l'ego qui m'a porté là où j'en suis. Ça je le sais. Mais après, il y en a. Mais après, l'ego. C'est toujours la même chose. Après, on peut débattre 1000 ans sur le mot ego. Il représente des choses différentes selon les gens, tu vois. Il y a aussi des choses chouettes dans l'ego parce que il peut y avoir l'esprit de compétition, il peut y avoir le dépassement de soi, il peut y avoir plein de choses. Donc, il en faut un petit peu, tu vois. Après, d'où ça vient?
Ce besoin de reconnaissance.
Oui, mais après, c'est pareil, leur besoin de reconnaissance. Je pense que si tu peux aller du truc le plus philosophique ou le plus profond possible en partant de failles d'enfance, où tu peux partir de là jusqu'à simplement avoir envie que les gens qui t'ont donné envie de faire ce métier soient fiers de toi. Ou il y a même parfois le challenge de juste d'avoir envie de jouer dans des salles immenses. Ça fait juste aussi un terrain de jeu. Tu vois, c'est comme un... Je sais pas, moi, c'est comme un
sportif qui essaie.
Exactement. Tu vois, on te dit, tu vas courir sur le terrain le plus incroyable du monde pour courir. Bah, t'as envie de courir dessus, tu vois, parce que tu veux aussi te dépasser. Donc, je crois que l'ego, il est nourri de plein de choses différentes. Ça peut être juste impressionner ta copine, jusqu'à combler les failles de ta mère, jusqu'à impressionner un chanteur ou rêver juste d'un jour que ce chanteur juste entende ton nom. Enfin, je pense que l'ego, il est nourri de plein de trucs différents, quoi.
Et tu penses le jour où tu feras la plus grande salle du monde, par quoi est-ce que tu seras porté au-delà de la passion de ton métier? Mais je me pose vraiment cette question des number one, d'où vient leur fin une fois qu'on est arrivé au plus haut niveau?
T'es jamais au plus haut niveau. T'y es jamais. En fait, ça, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur que tu vois ça.
Oui, t'as toujours des marges d'amélioration. Mais tu vois, Taylor Swift, elle est au top du game, tu vois, je veux dire.
Ouais, oui, pour toi, mais peut-être pas pour elle. Ce que je veux dire, c'est que tout est...
T'as personne à battre, entre guillemets, si ce n'est toi-même. Et c'est peut-être la façon la plus saine de se battre, d'ailleurs.
T'as toujours des gens à battre. Mais si, bien sûr que si. Si tu analyses tout et tous les pans de ton métier, tu trouveras toujours quelqu'un qui est devant toi sur un sujet. Je ne connais pas Taylor Swift, mais peut-être qu'elle se dit... peut-être qu'elle remet en cause... la popularité de ses musiques, peut-être qu'il y a un prix qu'elle n'a pas eu, qu'elle voudra avoir, peut-être qu'elle voudra avoir aussi une carrière cinématographique, peut-être, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, tu vois, peut-être qu'elle voudrait avoir une certaine reconnaissance d'une certaine caste intellectuelle et qu'elle ne l'a pas, donc il y a toujours quelque chose.
Et toi, c'est quoi que tu cherches?
Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un mélange de sincère passion de ce métier et de mes troubles dans ma tête. Je crois pas que si tu parle avec n'importe quelle personne qui me connaît de près ou de loin, et surtout ceux qui me connaissent de près, que ce soit des humoristes ou que ce soit des acteurs ou que ce soit des animateurs ou même simplement mon équipe, je crois qu'ils te diront tous que il y a quand même une certaine folie dans ma manière à moi de vivre. C'est-à-dire que j'ai mis une espèce de bulldozer en place, je fais tous les jours la même chose avec le même rythme et la même intensité quotidiennement pour avancer et atteindre mes objectifs. Mais je crois que je ne serai absolument jamais satisfait. Là, je vais faire 2 Bercy qui sont complets 6 mois avant et je commence à me dire, ouais, mais j'ai pas fait l'U-Arena. Je ferais que je fasse l'U-Arena.
Si vous nous écoutez.
Mais non, mais tu vois, enfin, là, regarde, on ouvre avec le trio, on vend 100 000 billets en 5 jours. Tu vois, on parle avec la FNAC qui me dit, on n'a jamais de notre vie vendu autant de billets pour un spectacle d'humour. Ça n'est jamais arrivé. Donc je pourrais me dire, on est 3. Il faut que je le fasse avec mon spectacle la prochaine fois. Si je le fais avec mon spectacle, avec le trio, là, c'est super. Et si je le fais que avec mon spectacle, je vais me dire, ouais, mais je ne l'ai pas fait avec le trio. Donc, je n'ai pas réussi à faire le meilleur trio. Tu vois? Donc, en fait, le problème, c'est que les idées sont infinies. Donc, à partir du moment où les idées sont infinies, les objectifs sont infinis, les déceptions sont infinies, et voilà. Et donc, même là, en faisant des Bercy, en faisant le trio, maintenant, je regarde ailleurs. Je me dis, et alors, en tant que producteur, j'en suis où? Ok, bon, c'est bien, j'ai des super artistes, mais j'ai pas de chanteur, je produis pas de chanteur. Je produis pas de chanteur. Je suis pas encore un vrai producteur, je produis pas de chanteur. Les chanteurs, ils me font pas confiance. Pourquoi les chanteurs me font pas confiance? Tu vois, enfin, en fait, c'est sans fin. C'est absolument sans fin.
Quels sont les troubles dans ta tête?
Tu veux la version psychiatrique?
Ouais.
Alors, donc je suis alcoolique, je suis malade alcoolique chronique, une forme lourde de l'alcoolisme. Alors, je vais vulgariser, hein, donc je dis ça pour les gens qui nous regardent, parce que c'est Internet, adore aller dans les subtilités pour dire que j'ai conscience que tout ce que je dis est un peu vulgarisé, mais c'est pour aller à l'essentiel. Donc, on va dire, entre guillemets, que tu as plusieurs formes d'alcoolisme, on va dire, entre guillemets. J'aime pas trop dire ça. Bon, enfin, bon, vous me pardonnerez la subtilité. Bon, grosso modo, tu as des mecs qui vont boire un litre par jour ou deux litres par jour, puis tu as des mecs qui boivent jusqu'au coma, quoi, jusqu'à la mort. Voilà, je suis plutôt dans la deuxième partie. Ensuite, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc un TDAH. Donc tu peux l'avoir avec hyperactivité ou sans hyperactivité, ce qui est quand même un peu différent, parce que l'hyperactivité, c'est une intranquillité physique. Comme tu vois, j'arrête pas de gigoter, tu vois. Encore ça va ce matin, je suis plutôt calme, mais tu vois, j'arrête pas, je bouge, je fais des trucs et tout. Et puis, donc c'est une intranquillité du corps, donc c'est extrêmement désagréable. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, c'est très dur pour moi de lire. C'est très, très, très dur pour moi de lire. Je n'arrive pas à lire. C'est très dur. Je peux me poser devant une série ou devant un film, mais c'est tard le soir en mangeant, parce que j'ai compris que quand je mange, ça me fatigue et donc j'arrive à me poser. Mais regarder un truc à midi ou à 13h, c'est pratiquement impossible pour moi. Il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois en train de faire quelque chose. Et ensuite, d'après les médecins, je suis haut potentiel. Donc ce n'est pas une maladie, mais je le dis juste parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Hein. Je m'en fous complètement du truc de QI, blablabla. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... Pour moi, ça n'a aucune importance. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que le trouble de l'attention avec hyperactivité lié à un haut potentiel change un peu la forme du trouble de l'attention avec hyperactivité et change un peu la forme du haut potentiel. En gros, le haut potentiel influe sur le TDAH et le TDAH influe sur le haut potentiel. Ce qui fait que ça donne une forme des deux trucs un peu différentes. Donc, c'est important de le savoir quand tu veux te comprendre. Et ensuite, je suis obsessionnel compulsif. Et obsessionnel idéatif. On pense que c'est le lien entre le HP et le TDAH qui génère un peu une surchauffe du cerveau, ce qui fait que le cerveau se trouve des obsessions, grosso modo. Alors après, il y a plein de théories hein, sur ce sujet-là, des obsessions compulsives, idéatives et tout. Il y a plein de théories, mais il y en a une que je trouve assez intéressante, c'est qu'en gros, le cerveau génère des obsessions sur les sujets les pires pour pouvoir gérer le quotidien. Grosso modo, avec le CV psychologique que j'ai, le quotidien devrait être très compliqué à gérer émotionnellement, au niveau du taf, au niveau de mes relations avec les gens. Ça l'est, hein, d'ailleurs. Et pour arriver finalement à dédramatiser le quotidien, le cerveau vient te harceler sur les sujets les pires, en les inventant d'ailleurs hein, souvent, ou en les exagérant, afin de trouver le quotidien finalement presque fade. Et j'aime bien cette théorie parce qu'elle résonne, il y en a d'autres, mais celle-ci, je trouve qu'elle est intéressante. Et je pense que c'est proche de la vérité.
Quand est-ce que tu as découvert tout ça ?
Alors, bah, ça, j'ai depuis tout petit. Hein. Après, je l'ai...
T'as été traité petit ?
Non, pas du tout. Non. Personne ne comprenait trop. Mes parents ils m'ont laissé voir des psys assez jeunes, à 14-15 ans je crois que j'ai vu mes premiers psys. Médecin généraliste, on a commencé à lui dire ouais, il est quand même un peu chelou, donc il m'a filé des trucs aux plantes pour essayer de me calmer.
De l'homéopathie. Ouais, l'homéopathie, sans clin d'œil anesthésie générale.
Ça n'a pas marché. Et après, à l'adolescence, j'ai vu des psys, mais qui m'ont dit non, c'est l'adolescence, ça va passer. Je dis c'est pas possible, ça a commencé avant l'adolescence. Ils m'ont dit non, mais c'est l'adolescence. Donc j'ai attendu l'adolescence, puis ça n'est pas passé, vu que ça n'était pas dû à l'adolescence. Et puis après, un peu plus tard, vers 20-25 ans, ça a augmenté. Je suis retourné voir des spécialistes qui m'ont dit non, il faut boire de l'eau.
Non.
Donc voilà, ça va aller, manger des fruits. Voilà. Et donc voilà. Mais parce que c'est des maladies invisibles, donc elles sont compliquées.
Enfin, est-ce que c'est pas le travail d'un psychologue de détecter les maladies invisibles ? Quand est-ce que tu as été diagnostiqué ?
Psychanalyste, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Le problème, en fait, c'est que c'est des métiers où il ne faut pas seulement avoir fait des études, il faut être brillant. Parce que, par exemple, un psychiatre, moi, quand je suis allé faire des gardes en psychiatrie, c'est...
Des gardes, c'est-à-dire ?
Je suis allé avec des psychiatres faire des gardes aux urgences et tout ça, pour voir comment ça se passait. Dans le cadre de mon spectacle, j'ai fait de l'immersion, donc j'ai fait des trucs aux urgences et j'ai fait des trucs avec des psychiatres. Et en fait, un psychiatre, c'est hallucinant, parce que donc, c'est un médecin, hein, évidemment, à la base, c'est un médecin. Et en fait, il passe beaucoup plus de temps dans les autres services que dans ses services à lui. Parce que finalement, quand vous avez un patient qui, sur le papier, ne devrait pas avoir de problème, enfin, je dis n'importe quoi, il a tel symptôme, on lui a donné tel traitement, il n'y a plus de raison médicale. Il n'y a plus de raison médicale, je mets des grosses guillemets à ce que je dis, à ce que le patient aille mal. À ce moment-là, on appelle généralement le psychiatre, qui a à la fois une vraie analyse médicale du patient et qui a cette partie psychiatrique. Mais ce qui est fou avec un bon psychiatre, c'est qu'il parle avec quelqu'un qui, a priori, est défaillant psychologiquement. Donc comment et son seul témoin et sa seule source, c'est ce patient. faut quand même se rendre compte de la complexité du truc. C'est-à-dire que tu dois savoir ce que le patient a, alors que le problème du patient, c'est le patient. Et ta seule source, c'est lui. Ce qui fait que dans sa parole, il faut arriver à comprendre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est dysfonctionnel, ce qui est... Tu vois, c'est fou. Et analyser tout ça d'un point de vue de sa formation psychiatrique et éventuellement réimpacter tout ça sur sa partie physiologique. Donc, on est sur quelqu'un qui a une pensée en arborescence totalement folle. Et donc, le problème, c'est que tu as des gens... Tu vois, c'est plus que juste avoir fait des études. Il faut être brillant pour arriver à machin. Ce qui fait que... C'est très dur de trouver des bons psychiatres.
Mais surtout parce que j'ai l'impression, enfin de l'extérieur, pour en avoir consulté, on ne les stimule pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de psychiatres, pour encore une fois en avoir vu certains, où tout ce qu'ils font, c'est te prescrire des médicaments. Et c'est essentiel, disons-le. Mais du coup, ils sont dans une forme d'automatisme où il n'y a plus du tout un échange. Enfin, en fait, il y a une telle demande pour si peu d'offres. Je n'ai pas envie tellement reprendre une théorie de marché par rapport à ça, mais
c'est intéressant,
comme tu dis, l'argent régit le monde.
L'offre et la demande pour la psychiatrie.
Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire il y a trop peu de psychiatres pour trop de problèmes psychiatriques. Et donc, on est dans une logique presque à la chaîne, encore une fois, malheureusement, l'économie de marché revient, mais où, en fait, c'est genre, t'as 15 minutes, on va te dire, ok, t'as ça, mais moi, ça m'est vraiment arrivé. Boum, ton ordonnance. Alors que j'en ai vu d'autres où c'est 4 heures dans un bureau. Et là, ils t'écoutent vraiment, tu vois.
Mais évidemment. Mais ça, c'est pas de la faute des psychiatres. C'est de la faute de ce système.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens comprennent. Les gens, maintenant, savent, ceux qui nous regardent, savent que le système de santé français est à l'agonie financièrement. On le sait, c'est un fait. Je veux dire, y a pas, ça, évidemment, ça n'a pas changé après le Covid, contrairement à ce qu'ils nous ont promis. Mais ça, personne n'y a cru, de toute façon. Donc maintenant, on peut le dire, on est à quelques années après. Voilà, ça n'a rien changé. C'est officiel. Et maintenant, je vais demander aux gens d'imaginer ce qu'on donne pour les services psychiatriques. Puisque quand juste les urgences sont à l'agonie et que médiatiquement, c'est un sujet fort, c'est un sujet dont on parle, je laisse les gens imaginer ce qu'on donne à la psychiatrie, qui est un sujet dont on ne parle pas. Et même les principaux concernés n'en parlent pas, parce qu'il y a un travail aussi de déstigmatisation à faire pour que les gens n'aient plus honte de dire « je vais voir un psychiatre ». La psychiatrie en France, c'est la dernière roue du carrosse. C'est une catastrophe en termes économiques. C'est-à-dire que déjà, les urgences, c'est une catastrophe. En fait, si tu veux, si ton salon est pourri, je te laisse imaginer l'état de ta chambre d'amis. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. C'est que la psychiatrie, même, et pourtant je suis allé dans des hôpitaux, j'ai fait un peu de tout, mais j'ai fait aussi des hôpitaux qui ont un peu d'argent quand même. Mais c'est une blague, la psychiatrie. C'est une blague. Il n'y a rien. Et il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de psychiatres. Parce que ce monde
va mal.
Est très anxiogène.
Spoiler.
Donc, ils sont totalement débordés, n'ont plus le temps de faire correctement leur travail. Il y a plein de bons psychiatres. Hein.
Ouais, ouais.
Tout à l'heure, j'ai dit que c'était dur.
Comme tu dis, il faut être brillant pour l'être. Donc
Oui, et puis après, ça dépend de ton patient. C'est genre la même chose. C'est que tu as des patients plus complexes que d'autres.
Ouais, ouais, ouais.
Tu as des patients avec des symptômes beaucoup plus évidents que d'autres.
Ouais. Donc, par définition, la psychiatrie est complexe. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça, enfin, pour avoir été mal diagnostiqué, c'est dangereux, quoi. C'est un sujet qui est tellement... tu vois, c'est, en effet, c'est pas une jambe cassée, quoi. Tu peux pas le voir tout de suite, c'est pas évident. Donc, ça nécessite de pas aller trop vite, quoi.
Ça nécessite de pas aller trop vite, et puis ça nécessite de pouvoir se tromper. Parce que ça fait partie du chemin. Parfois, t'as une part aussi de responsabilité. Moi, je tiens quand même à dire ça aux gens.
Comment ?
Par exemple, si tu dis pas la vérité, si t'es pas lucide sur qui tu es, ça complexifie le travail du psychiatre. Tu vois, si tu commences à dire au psychiatre non, honnêtement, je bois pas en excès. Attends, tu bois pas en excès. Alors attends, déjà, qu'est-ce que t'appelles l'excès? Est-ce que t'es objectif? Est-ce que t'es lucide? Rien que ça.
Ça t'est arrivé?
Non, pour le coup, non, franchement, j'étais
t'as
pas.
T'as été honnête.
Oui, mais parce que j'avais pas. Moi, j'ai jamais eu de honte. Pour le coup, ça, c'est pas un truc sur lequel j'ai dû travailler. J'avais pas honte de ce que j'étais. Je savais que je buvais trop. Tu sais, je bois trop. J'ai toujours été très honnête avec qui j'étais, avec ce que j'étais, mais parce que j'en ai pas eu honte. Parce que je me disais, je veux m'en sortir. Donc, je savais. J'ai très vite capté que si je voulais m'en sortir, il fallait que je sois 100% honnête avec les gens que j'avais en face de moi. Après, j'ai peut-être menti par.
Omission.
Par omission et par manque de lucidité, tu vois. Mais certainement, peut-être, tu vois. Mais c'était pas volontaire, quoi.
Ça a commencé comment, le fait de boire ?
Très jeune, hein, comme tout le monde, je crois. J'ai quand même, tu sais, tu bois ta première coupe de champagne avec ta famille, et puis sauf que moi, ça me fait un effet très 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 jeune, je sens que c'est le truc le plus merveilleux de ma vie, quoi. C'est-à-dire que ça génère quelque chose dans ma tête, dans mon ventre, dans ma poitrine, qui est, je sens que c'est beaucoup plus fort que tout le monde. Et puis l'envie d'en consommer beaucoup beaucoup. Et puis et donc très vite ça me fait peur parce que je sens bien que voilà, je vais te faire un résumé, hein, parce que je vais pas te faire jour par jour de mes 14 ans à mes 38 ans maintenant. Mais bon, en gros, quand je bois 10 fois plus que tout le monde et je me mets dans des états abominables. Je passe de phase de je bois plus rien pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois à je bois juste le samedi, à je bois 3 fois par semaine. Enfin bon, j'oscille comme ça sur des phases et des périodes de ma vie. Mais de toute façon, à partir du moment où je prends un verre, j'en bois 45. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que je recherche à chaque fois dans l'alcool, c'est de ne plus du tout être lucide, quoi. Je me mets dans des états abominables. Ça, c'est systématique. Donc, j'ai très vite conscience que j'ai un petit problème avec l'alcool. Donc, par exemple, j'ai pas d'alcool chez moi. Enfin, je fais des trucs, je lutte. Donc, j'arrive, on va dire, à tenir le truc pendant pas mal de temps, sans que ça se voit trop, sans que ça impacte trop ma vie professionnelle. Et puis, vers 29, 30 ans, mes troubles aussi dans ma tête augmentent, hein, parce que je comprends de moins en moins ce qui m'arrive. Ça me génère des flashs, des obsessions, des trucs. Enfin, c'est vraiment le chaos dans ma tête tout le temps, et encore plus avec l'alcool évidemment. Et vers 29-30 ans, je me dis bon, ouais, je vais m'autoriser un petit verre tous les soirs, quoi. Voilà. Et alors là, à partir du moment où je me suis dit je peux boire tous les soirs, j'attendais toujours, mais tu sais, j'allais faire mon sport et tout, hein. Je me disais, mais non, bah c'est après le sport, donc j'allais faire mon sport. Et si j'avais du travail, je ne buvais pas jusqu'à ce que j'ai fini de travailler. Mais que je finisse de travailler à 20h, à 23h ou à 1h du matin, ce qui est sûr, c'est que j'allais me coucher bourré, quoi. Donc je mettais, si je n'avais pas le temps, j'allais me boire 2-3 bouteilles en 1 heure pour me casser. Et j'ai commencé à... Et voilà, et donc là, ça a été terrible. Et là, en un an, j'ai commencé à me lever le matin, à avoir des angoisses tellement fortes que je me disais, je ne vais pas arriver à faire cette promo, je ne vais pas arriver à faire cette interview, je vais pas... Donc j'ai commencé à mettre à boire des shots de whisky avant de faire des trucs le matin pour juste essayer de calmer, juste soit retrouver de la bonne humeur, parce que j'en avais plus, soit calmer mes angoisses, tu vois, parce que j'avais les mains qui tremblaient et tout, j'étais vraiment mal. C'était pas l'alcool, hein, c'était les angoisses, parce que pour trembler à cause d'alcool, c'est que ça a touché ton système nerveux, tu vois, c'est pas le cas pour moi, mais juste l'angoisse, quoi. Et puis voilà, puis là c'est mort. Et alors là, tu commences à boire le matin, là c'est terminé. Là après tu commences à boire le midi. Après, en vacances, ben, je buvais tous les matins. Officiellement, je buvais le midi, mais je me le bats à 11h. Et à 11h30, j'attaquais, tu vois. Donc, bon, c'était quand même se boire en se levant. Et puis ainsi de suite. Et puis, jusqu'à un jour où je tombe dans une dépression, je pense, très sévère. Et je me mets à boire. Et là, on ne sait pas. Je perds le contrôle. Et je bois tout le temps. Je bois du matin au soir, tout le temps, pendant des semaines. Et bon, là mon entourage commence à s'inquiéter, etc. Jusqu'à ce que je me retrouve au bord d'une fenêtre. Voilà. Et c'est là le déclic où je vais descendre de cette fenêtre, finalement. Et je vais partir en cure, etc.
Est-ce que c'est du fait de l'alcool que tu t'es retrouvé sur ce rebord de fenêtre à finalement te dire la mort est préférable à la vie?
Tu sais, pendant un moment, j'ai même dit à mon meilleur ami Michael, qui est mon associé aussi, c'est lui qui m'a trouvé au bord de la fenêtre. Je savais pas qu'il allait rentrer dans la pièce, hein. C'est un coup du hasard qui fait qu'il monte et qu'il a la clé de ma chambre. Et pendant un temps, quand j'ai écrit ce spectacle, je disais à Mika, mais est-ce que j'ai le droit de parler de tentative de suicide? Tiens, on peut en discuter, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai pas sauté. Lui, quand je lui ai posé cette question, il a rigolé. Hein. Il dit, mais t'étais au bord d'une fenêtre à 20 mètres de haut et t'as poussé sur tes bras comme ça pour. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fallait que tu. Parce que là, si t'étais en bas, de toute façon, tu pouvais pas en parler. Donc lui, il s'est étonné que je me pose cette question. Mais moi, je me dis, oui, il faut que je sois vraiment honnête intellectuellement. Je trouve que l'honnêteté intellectuelle est quelque chose de. Enfin, c'est un truc qui me.
Précieux.
Bien, mais oui, mais bon, moi, en fait, je peux pas défendre un truc si j'en suis pas convaincu, tu vois. Et en fait, je me suis. En réanalysant le sujet, j'ai su que je pouvais parler de tentative de suicide parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, et je le raconte d'ailleurs sur scène, c'est que j'ai ressenti de la joie. J'avais déjà eu des moments où j'avais des médicaments devant moi et tout ça, et où je disais je vais les prendre, même je les ai mis dans ma bouche, puis je les recrachais, ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces moments. Mais j'ai vraiment senti que mon cerveau avait déconnecté, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti de la joie, une espèce de joie, vraiment, j'étais content, quoi. J'étais heureux et j'ai fait ça. Donc et puis mon instinct de survie s'est réveillé au moment où j'allais tomber vraiment. Donc voilà, on y était, quoi. La différence, donc, c'est ce moment où ton cerveau déconnecte l'instinct de survie et où l'instinct de survie devient la mort. C'est-à-dire que ton cerveau, à ce moment-là, il déconnecte la peur de la mort et il génère chimiquement quelque chose dans ton cerveau qui fait que la mort devient quelque chose de joyeux et une solution géniale.
Une libération.
Donc, on est sur un moment de folie. Moi, j'appelle ça de la folie. C'est-à-dire que tu n'es plus dans un état de lucidité. À ce moment-là, j'ai 31 ans, je réussis tout ce que j'entreprends, j'ai de l'argent. Il n'y a pas de raison factuelle de trouver ça chouette de se jeter dans le vide.
Mais la santé mentale, elle n'est pas rationnelle.
Non, mais donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, faut bien comprendre ça. Je trouve que c'est important de le dire. C'est que c'est un moment de folie qui peut durer une seconde de trop, juste une seconde, 5 secondes, 10 secondes, enfin, tu vois. Mais c'est un moment de folie pour moi. Après, qu'est-ce qui t'amène à ça? Effectivement, l'alcool. L'alcool est un dépresseur. Donc, si t'es dépressif, si t'as des problèmes dans ta tête et que tu bois de l'alcool, tu empires ton état. C'est mathématique et c'est factuel. Ensuite, les obsessions. Les obsessions, c'est, pour moi, c'est un des trucs qui me... Les obsessions, quand, en tout cas, la forme que moi j'ai, c'est abominable. C'est-à-dire que tu imagines le pire truc, le truc qui t'angoisse le pire dans ta vie, et t'as ton cerveau qui, toute la journée, chaque seconde de ta journée, va créer des liens avec tout ce que tu vois, tout ce que t'entends, tout ce que tu ressens, tout ce que tu touches. Il va aller générer une image, l'image la plus terrible sur le sujet qui t'angoisse le plus. C'est-à-dire qu'il va prendre, il va casser les temporalités, il va prendre le futur, le passé, le présent, il va mélanger tes proches dedans, il va supposer des choses. Je veux dire, la matière en plastique de ta plante sur le mur pouvait me générer, quand je suis en crise, peut me générer une image qui va me faire comme un coup de poignard dans le cœur. Donc quand tu es en crise, parce que je faisais ce qu'on appelle je crois qu'il appelait ça des embrasements, il appelait ça mon psy, quand je faisais des embrasements, je ne sais pas. Il n'y a plus rien qui m'apaise. Je ne peux même pas me mettre dans un lit parce que les frottements des draps me génèrent encore des images. Je ne peux pas écouter de musique. Il n'y a rien. Il faudrait que je sois dans un espace neutre, vide, en l'air, comme ça, peut-être dans l'espace. Et encore, je pense que je verrai des étoiles et mon cerveau, il arrivera à dire « Ah, les étoiles !» Donc, c'est tout un tas de trucs. Mais ça, c'est propre à moi. Les autres personnes qui, malheureusement, ont fait des tentatives de suicide dans leur vie, c'est d'autres sujets. Moi, c'était ça. C'est que je ne savais plus comment arrêter mon cerveau. Et je pense que mon cerveau, d'un point de vue purement physiologique, je pense qu'il y a une surchauffe. Il fait « Et à un moment donné, il dit « Ah putain, la fenêtre, ah, super, génial. » Eh ben, sautons. Voilà, je pense que c'est ça, quoi.
Qu'est-ce qui te permet de remonter la pente?
La peur d'avoir failli mourir. C'est-à-dire qu'une fois que tu reviens sur Terre, en fait, tu te rends compte que tu allais te tuer alors que tu ne veux pas mourir. Donc tout d'un coup, tu te vois comme ton meurtrier. Tu as peur de toi comme tu aurais peur de quelqu'un qui est dans une pièce avec toi, il a un couteau, et tu ne sais pas à quel moment il va... Parce que quand tu as pris conscience que tu perdais la maîtrise de ton cerveau, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce que tu dis, mais en fait, là, demain, je peux avoir envie je vais me jeter. Tu deviens ton ennemi. Ça devient très factuel. Tu l'étais depuis longtemps, mais là, ça devient très factuel. Parce que pendant très longtemps, tu crois que tu maîtrises. Ça, c'est la base de n'importe quelle personne qui se drogue et tout ça. Mais c'est bon, je maîtrise. Ça, c'est vraiment le truc. Moi, j'essaye d'aider au mieux des proches, des amis de proches, des enfants de proches et tout sur ce sujet-là. Pour l'instant, je maîtrise. Hein. Mais c'est vrai que, bon, ouais, je maîtrise rien du tout. Mais. Après, t'as tellement peur de toi que là, à ce moment-là, je dis à Michael, je dis, il faut absolument m'enfermer, il faut me priver de ma liberté. Parce que là, parce que libre, je suis capable de faire ça, donc il faut m'enfermer. Et donc, je rentre dans une cure de désintoxication en Suisse. Et je vais dans cette cure parce que je sais qu'il y a des médecins incroyables dedans. Psychiatres, comportementalistes, thérapeutes, enfin bon, tout, un peu tout. Et qui vont vraiment prendre le temps. On est 15 dedans, dans une espèce de petit chalet, tu vois, tous ensemble. Tous les oufs.
Il n'y a que des hommes ou pas?
Non.
Non.
Ok. Non, il y a de tout. Il y a de tout, et puis il y a des dépendants, affectifs aussi qui sont avec nous. Il y a des gens qui sont à l'héro, des gens qui sont à la coke, okay. Des gens qui sont à l'alcool. Et c'est basé sur le programme des alcooliques anonymes. Alcooliques anonymes, cocaïnomanes anonymes, dépendants affectifs anonymes, dépendants sexuels anonymes. Enfin, tous ces trucs-là, c'est le même programme. Hein. Tu peux aller dans n'importe quelle réunion, c'est la même base, c'est le même truc, tu vois. D'ailleurs, on parle très peu du produit, généralement. Souvent, on dit, on va parler de produit, mais le produit, ça peut être autant le sexe que de la cocaïne ou de l'héroïne, tu vois.
Qu'est-ce que t'apprends sur toi?
J'apprends que je suis responsable. Parce que ça, c'est un des grands trucs. moi, cette cure sur moi, elle a fonctionné. Il y a d'autres moyens de s'en sortir. Je dis ça parce qu'évidemment, mes témoignages font qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on ne peut s'en sortir qu'en allant en cure de désintox. Pas du tout. Hein. C'est une minorité de gens qui vont en cure. En vrai, c'est un luxe, hein, de pouvoir aller en cure. Déjà, il faut pouvoir se la payer. Et puis, il faut pouvoir arrêter sa vie pendant un mois pour le faire. Et heureusement, il y a plein de gens qui s'en sortent uniquement grâce aux Alcooliques Anonymes, qui est gratuit. Et tu vois, tu peux. Donc, heureusement, il y a d'autres manières de s'en sortir. La cure, c'est un petit luxe, quoi. Donc moi je pense que ça a fonctionné sur moi parce que j'étais prêt. Il y a des gens, ils sortent de cure, une heure après ils sont au bar, tu vois. Donc faut y aller quand on est prêt. C'est pour ça, même des fois quand il y a des gens qui me disent oui je voudrais envoyer ma fille en cure et tout, je dis qu'est-ce qu'elle dit ta fille? Elle dit qu'elle a pas de problème. Je dis mais elle envoie pas en cure, ça ne sert à rien. Tant qu'elle dit j'ai pas de problème, ça sert à rien, tu vois. Il faut d'abord qu'elle travaille sur elle-même et faut être prêt. Sinon, si t'es pas prêt à recevoir le truc, moi quand j'y vais, je me dis quand je rentre en cure de désintoxication, je dis même s'ils me veulent me déguiser en lutin pour faire une chanson de Noël dans un supermarché et qu'ils me disent que grâce à ça je vais m'en sortir, je le ferai. En fait, j'accepte pendant un mois de déposer tout ce que je pense par terre et de simplement pour une fois faire qu'écouter. Alors c'est pas si simple en fait quand il y est, parce qu'en fait tu t'aperçois que t'as plein de mécanismes de défense, que tu t'es inventé plein de choses dans ta tête, que tu t'es raconté plein d'histoires, que t'as trouvé plein de causes à ton problème qui est généralement pas toi. voilà, et c'est ça qui était bien dans cette cure, c'est qu'il traitait pas forcément tout le monde de la même manière. Il voyait bien les différentes personnalités et tout. Et moi je sais que ce qu'ils ont fait majoritairement, c'est me défoncer, quoi. Ils ont que cassé tous mes discours. Ils ont cassé mes discours. Comme je suis un raconteur d'histoires, bah je racontais bien les histoires en mettant bien le ton.
Mais t'essayes de trouver quoi? Des excuses, c'est ça? Des raisons?
Ouais, puis
t'essayes de les convaincre.
Et puis c'est tout un truc, tu vois. C'est que moi, si je te raconte une histoire de quand j'avais 10 ans, bah, s'il me manque des petits morceaux dans l'histoire, je vais t'en trouver, tu vois. Mais c'est normal, tout le monde fait ça. Mais sauf que moi, je le fais bien, c'est mon métier. Alors, je faisais rire les gens, je racontais les trucs et tout machin. Et j'avais ma thérapeute, je m'en rappellerai toute ma vie, en face de moi, qui me disait, arrête, en fait. En fait, on s'en fout que ton discours il soit agréable à écouter, raconte-nous la vérité, plutôt que de juste nous raconter des histoires pour être intéressant quand tu nous racontes. Tu vois, c'est vrai. Ben, moi, tu me mets 10 personnes, alors je raconte des histoires, j'ai envie que les gens ils passent un bon moment. ce qui m'intéressait avant tout, c'était que les gens passent un bon moment en m'écoutant. Ce que je disais, moi, je veux pas être chiant comme Jean-Louis qui a parlé pendant 20 minutes, on avait tous envie de crever. Moi, je vais te raconter un truc triste, mais ça va être cool, tu vois, il va se passer quelque chose. Donc, il casse ton ego, il casse tout, en fait. En tout cas, moi, c'est ce qu'ils ont fait avec moi.
Et tu sors de là, c'est en quelle année?
2016,
c'est ça?
Ouais.
Tu n'as plus retouché un verre depuis cette cure, vraiment?
Jamais.
C'est dingue quand même, l'efficacité ta détermination.
Non, mais je n'ai pas le choix.
C'est un combat encore ou pas?
Bien sûr, ça sera un combat toute ma vie. Toute ma vie.
Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pas avec l'alcool, la comparaison est peut-être très malvenue, mais tu as des gens qui disent, ah moi j'ai arrêté le sucre et en fait j'en ai même plus envie.
Ouais.
Non, ouais. C'est pas le cas pour toi.
Toute ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, t'as plus jamais eu envie de sucre. C'est super, faut écrire un livre.
pourquoi les gens se racontent à eux-mêmes des histoires? Parce qu'on veut en raconter aux autres.
Parce que c'est ta seule motivation. Qu'est-ce que t'as d'autre? Si tu veux te sortir de la dépendance, il n'y a que toi qui peux t'aider. Les gens, ça peut être un soutien, t'as besoin de gens qui t'aiment, etc. etc. Mais je vous le dis, même pour ceux qui m'écoutent, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes d'alcool ou de drogue, ou n'importe quelle dépendance, c'est la même chose. Hein, de toute façon, tout ça, c'est la même chose. Hein, l'alcool, pour moi, l'alcool, c'est de la drogue, de toute façon. Et puis tout ça, c'est la même chose. Si la personne vous dit en face de vous, j'ai pas envie d'arrêter, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez la traîner en cure de... Ça ne sert à rien. C'est tellement difficile d'arrêter que si tu n'as pas décidé d'arrêter, tu ne peux pas arrêter. Quel que soit, le reste, c'est des outils qu'on te donne. On peut t'acheter les baskets les plus chères du monde et t'emmener devant on repart sur les pistes de course. On peut t'emmener dans le stade le plus agréable à courir. Si tu te lèves pas, il y a personne qui va prendre tes jambes pour faire ça avec, tu vois. Donc les gens, ils ont besoin de se raconter des histoires. Écoute-moi, franchement, ça me gêne pas. Si la personne, elle a besoin de se raconter, qu'elle a plus du tout envie de boire pour ne plus boire, mais qu'elle se le raconte, c'est pas très grave, tu vois. Et puis peut-être que, tu sais, l'autosuggestion, ça fait des miracles. Hein. Peut-être qu'elle arrivera vraiment à ne plus avoir d'envie. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui a priori, qui n'ont plus du tout d'envie. Moi, j'en ai encore de temps en temps. C'est très... Mais ça traverse, tu vois. Ça me traverse, ça fait 2 secondes, et puis ça passe. Mmh. Tu vois, là, ça va faire, je sais pas, 7 ans ou 8 ans, je crois que j'ai pas bu d'alcool. Donc, heureusement, avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Et puis surtout, je ne m'impose rien, tu vois. Si je suis dans une soirée, que ça commence à picoler et tout, que je commence à sentir que je le vis pas bien, je me barre, en fait. Mmh. Donc, il faut juste accepter de vivre la vie différemment. Mais on ne négocie pas avec la dépendance. On ne négocie pas avec la dépendance. Ça c'est le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie. On ne négocie pas avec la dépendance. Tu sais, parce qu'il y en a, ils boivent, alors après ils arrêtent, ils fument des joints le soir. Moi j'ai arrêté de boire, je fume 2-3 joints le soir et tout. Et en cure de désintox, ils appelaient ça changer de cabine sur le Titanic. Je trouvais ça génial.
Quand même par couler.
Bah oui, parce que tu vois, moi j'ai pris une fois de la cocaïne dans ma vie. J'en ai pris de 19h à 14h, je crois. Et comme dans les films, quoi, c'est mes potes qui ont fini par tout balancer à la poubelle. Ils m'ont dit, mais t'es fou, en fait, tu vas mourir. Tu vas mourir d'une overdose la première fois que t'en prends. Je devenais fou. Ça m'a rendu fou. Mon cerveau, moi, je vois ça comme une allergie. Ça me rend fou, en fait. Pourquoi je ne rebois pas? Parce que je vais mourir. Je vais mourir, j'ai pas envie de mourir. Je sais très bien ce qui va se passer. J'ai fait le deuil. Je sais que je ne peux pas boire un verre. Là, tu me sers une bière, c'est terminé. Dans 8 heures, je suis encore là. Et jusqu'à 7h du matin, je suis encore en train de boire, tu vois. Je le sais, c'est pas la peine. N'importe quelle substance, ça part en cacahuète dans ma tête. Tu me donnes n'importe quoi, mon cerveau, il fait « Ok, c'est ça l'important maintenant. » Donc, c'est tout, je ne peux pas. Donc, de temps en temps, mon cerveau, il me dit... Et puis, je fais ce travail-là de plus en plus, c'est que j'essaye d'analyser mon cerveau comme un cerveau qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que je me dis « Ok, tout ça, c'est que la réaction chimique. C'est que je ne suis pas différent, en fait. » Je ne suis pas exceptionnel. J'ai juste un cerveau qui réagit d'une certaine manière et il y a plein d'autres cerveaux qui réagissent de cette manière-là. Donc, la seule chose que j'ai de différente, c'est ma conscience. Ma conscience, elle est à moi. Le reste, c'est un corps. C'est juste un corps. Donc, tu dois reprendre la maîtrise de ton corps. Et ton cerveau, c'est ton corps. Donc, si tu sais que tu ne maîtrises pas ce que donne une goutte de martini rouge sur ton cerveau, on arrête le martini rouge.
Comment tu maîtrises tes autres troubles ?
Bah, l'hygiène de vie, moi j'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai essayé plein de trucs différents, il n'y a rien qui a vraiment marché. C'était trop puissant, je pense, dans ma tête. Mon cerveau, il trouvait toujours des manières de...
Tu penses à quoi ? Des pratiques, des médicaments ?
Ouais, j'ai essayé plein de trucs. L'hypnose, j'ai essayé, ça n'a pas marché sur moi. Le MDR, hein, c'est ouais. Ça n'a pas marché. Je sais pas, j'ai essayé tellement de trucs.
Les médicaments, non ?
Il ne faut pas me donner des médicaments. Je suis indépendant. Si tu me donnes des médicaments, c'est mort.
Même des médicaments qui ne génèrent pas d'habituation ou de...
Aucun spécialiste des troubles que j'ai ne m'a suggéré, par exemple, ce traitement-là, quoi. Et j'en suis bien content.
Pourquoi ?
Parce que j'ai réussi quand même à faire avec. En fait, moi, j'ai travaillé simplement sur mon hygiène de vie. En fait, j'ai essayé de me comprendre. Déjà, j'ai fait un travail sur quelles sont les pensées dysfonctionnelles des pensées de mes pensées. Quelles sont les pensées que j'assume et quelles sont les pensées qui sont très cheloues. Bon, ça, c'est pas dur.
A priori, on n'a pas la différence.
Parce que vu les trucs qui me traversent l'esprit, ouais, clairement, ça, c'est bizarre. Mais donc, ça n'a pas été trop dur. Et après, j'ai compris en fait que plus j'avais d'énergie, en fait, je me suis aperçu que j'étais pas dépressif. J'étais quand même un mec. Finalement, moi, je pensais que j'étais un peu dépressif et pas du tout, en fait. Je pense que je suis un mec qui suis plutôt de bonne humeur, tu vois, en me levant le matin. Donc, même si ça se voit pas forcément, mais en tout cas, je suis plutôt de bonne humeur en me levant le matin. Et en fait, je me suis aperçu que si j'arrivais à garder de l'énergie, plus j'avais d'énergie, plus mes troubles étaient discrets. Donc, j'ai travaillé énormément sur mon hygiène de vie. Donc, par exemple, j'ai éliminé le sucre. Tu vois, j'aimais bien manger du sucre le matin, j'ai tout dégagé parce que ça me fatigue, ça me crée des crashs. Voilà, chez tout le monde, hein, tu sais, ça crée des crashs
glycémiques,
merci, qui fait que ça joue énormément sur ton humeur. J'ai arrêté le café, parce que le café j'en buvais trop. J'ai arrêté le Red Bull, je buvais 17 canettes de Red Bull par jour quand je suis sorti de cure de désintox, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout ce qui pouvait générer
des changements physiologiques,
des changements de hauts bas, etc. J'essaie de me coucher tôt, j'essaie de gérer mon alimentation pour manger sainement et beaucoup de sport. Et après j'ai travaillé aussi dans mon rapport avec les gens, c'est-à-dire j'ai travaillé sur ma colère, j'ai travaillé sur... pour arrêter de me mettre en colère tout le temps. J'ai travaillé sur mon rapport aux autres, essayer de plus m'ouvrir, de plus parler. J'ai appris à faire plus de compliments aux gens, tu vois, à être plus gentil, à être plus moi, parce qu'en plus, je suis comme ça, tu vois. C'est même pas un effort, c'est que je suis comme ça, c'est juste que ça sortait pas, c'était pas... Je suis un peu dur, tu vois, je parle pas trop, je fais pas trop de compliments. Parce que je considère que comme je n'aime que très peu de gens, que si t'es avec moi, c'est que je t'aime. Donc j'ai pas besoin de te le dire, tu vois. Donc j'ai travaillé là-dessus pour essayer d'améliorer mon rapport avec les gens. Et je travaille quotidiennement pour que... Et je le fais même pas pour les autres, je le fais pour moi, parce que il faut que la vie soit paisible. J'élimine de ma vie avec beaucoup de vigueur et de véhémence tout ce qui peut être toxique pour ma tranquillité, mon bien-être et mon équilibre de vie. Donc tous les gens, toutes les espèces de démons que tu peux croiser dans ta vie qui vont tout d'un coup rentrer et foutre le bordel, ça dégage immédiatement. Et j'ai lâché le... Tu sais, mon associé dit toujours qu'il y a une bête qui vit en moi. Michael, il dit toujours ça. Il dit à l'intérieur de toi, il y a une bête qui n'a pas besoin d'eau, qui n'a pas besoin de nourriture qui te détruit. C'est elle qui est extrêmement forte et il faut juste la museler et lâcher au bon moment.
De George Jekyll et Mr. Hyde.
Oui, mais en même temps, ça me donne beaucoup de force parce que quand c'est, par exemple, ma colère, elle est nourrie par ça. Et quand je suis en colère, j'ai plus peur de rien. Et j'ai un truc de folie qui me donne aussi tellement de force, tellement d'énergie. Vraiment
c'est un moteur, quoi.
Une force folle, tu vois. Quand je suis sur scène pendant 3 heures, il n'y a pas que moi sur scène pendant 3 heures. Il y a la bestiole aussi que je lâche un peu, tu vois. Et donc, essayer de s'en servir, tu vois, comme un, tu sais, il y a des fois dans certains films, dans des dessins animés, tu sais, il y a des guerriers comme ça, un peu chelous, qui ont des espèces de bestioles un peu chelous, un peu dragons qui volent, puis qui tuent un peu des jambes. Ben, je vois un peu ça comme ça, tu vois. Bon, après, voilà, il faut que je la tienne parce que sinon, potentiellement, elle peut me buter. Mais je vois vraiment ça comme ça. Donc, je l'apprivoise, tu vois. Il y a des jours, elle a envie de prendre le dessus. Il y a des jours, elle commence à parler trop fort dans ma tête. Et je travaille avec. Et puis, la méditation, j'ai travaillé beaucoup sur la méditation.
Je me permets de te le dire, hein, c'est pas du tout recommandé quand on a des troubles obsessionnels. Scientifiquement, tu regarderas les études, ça, t'as des risques de rechute ou de récidive beaucoup plus importantes.
On n'a pas lu les mêmes choses, parce que moi j'ai plutôt lu l'inverse pour le coup, tu vois, c'est intéressant.
Ouais. J'ai reçu une docteure en neurosciences ici qui en parle. Anne-Hélène Claire.
Alors après, tu sais, c'est ça qui est aussi passionnant avec la psychiatrie, c'est que, et là on revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la vérité, c'est que
elle n'existe pas.
Le cerveau,
notamment en science, il n'y a que le temps qui peut donner la vérité.
Et puis le cerveau, c'est tellement complexe. Il y a bien un truc qu'on maîtrise pas encore, c'est le cerveau. Donc pour le coup, la psychiatrie révèle encore. Mais moi, mes amis psychiatres me le disent. Ils disent pour l'instant, ça reste encore un peu de la sorcellerie, quoi. C'est-à-dire que tu n'as qu'à lire juste la liste des effets secondaires de n'importe quel médicament, dépresseur, antidépresseur ou tout ce qu'on peut te donner. Enfin, je veux dire, pour l'instant, c'est encore très compliqué. Je veux dire, regarde la violence des traitements psychiatriques pour les trucs un peu lourds, pour des traitements un peu lourds. C'est quand même très violent pour le corps, etc. Donc, à partir du moment où c'est violent, c'est qu'on n'est pas dans la finesse. Si on n'est pas dans la finesse, c'est qu'on n'a pas encore tout compris. Donc moi, personnellement, je ne crois pas que la méditation puisse te faire rechuter, puisque la base pour moi de la méditation, c'est de laisser passer les idées qui arrivent sans leur donner d'accroche. Donc, quand même, la base d'une obsession, c'est d'avoir des idées abominables qui viennent et qui t'accrochent. Donc, a priori, ça m'a semblé logique de me dire, tiens, cet exercice peut m'aider. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé.
Mais c'est le principal, hein, c'est sûr.
Moi, j'ai toujours du mal à croire Mais tu sais, même des psychiatres qui m'ont beaucoup aidé, je suis pas d'accord avec eux sur tout, tu vois. Et je ne suis pas d'accord avec eux parce que factuellement, ce qu'ils me disent, c'est faux par rapport à ce que moi, j'ai vécu sur mes propres sujets, tu vois. Donc, de toute façon, c'est tellement complexe, la psychiatrie.
Sur quoi t'essayes ou tu aimerais travailler sur toi? Tu nous as partagé ce que t'as fait. Est-ce qu'il y a encore des aspects dans ta vie, dans ta personnalité, que tu aimerais travailler?
Ouais, il faudrait que j'arrive à trouver une certaine sérénité et je pense qu'elle viendra en étant fier de moi. Ça, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal. J'ai encore beaucoup de mal à être fier de à être fier de moi. Et je n'arrive pas à le combler en faisant plus de choses. C'est-à-dire que j'ai la chance jusqu'à présent d'avoir à peu près réussi tout ce que j'ai pu entreprendre. Et malgré ça, je n'en tire pas de fierté. C'est-à-dire que je suis toujours à me dire, ok, bon, c'est bien, mais c'est encore trop petit. J'ai pas encore assez fait plaisir aux gens. J'ai pas encore assez surpris. Il y a pas encore. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça me donne. C'est que des fois, j'ai la sensation de courir face à des moulins à vent, en fait, parce que je me dis, mais à quel moment je vais juste être un peu fier? Quand je suis en interview, quand je suis pas là, parce que c'est différent, mais quand je vais débattre avec, tu sais pas, des ministres, des trucs, que je suis pas en ou que je suis sur scène, ou que bon, ben là on est avec la bête, on est tous les deux, donc là on fait ce pour quoi on est sur cette terre, c'est-à-dire on essaye de à notre manière de changer les choses et de se battre. Voilà, moi j'ai toujours vu ma vie comme un combat, donc je vis tout à travers ce prisme-là. Mais après, quand tu redescends, que t'es chez toi, que tu te calmes, que t'es en famille, que à ce moment-là, logiquement, t'as le repos du guerrier, tu vois, t'as ce moment où t'es bien. Et ça, je l'ai une heure en sortant de scène. J'ai cet état un peu extatique, chouette. Et après, très vite, je dis, OK, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que... Donc voilà, il y a encore un travail vraiment important à faire sur la sérénité et ouais, juste être fier de moi. Et puis d'avoir un peu confiance, quoi. Tu vois, de me dire, ça fait 15 ans que je suis là. Ma carrière, elle s'est pas faite, pour rien, elle s'est pas faite d'un coup. Ça m'est pas tombé dessus. Je l'ai travaillé, j'ai grandi avec le public. J'ai travaillé sur tous les aspects, sur l'humour, sur scène. Je veux dire dans des livres, à la radio, à la télévision, au cinéma, en production, en mise en scène, en écriture. Et ça fait plus de 15 ans que les gens sont là et tout. Donc je devrais, tu sais, essayer d'avoir une espèce de OK, ça va pas s'arrêter tout de suite, quoi. Mais ça, c'est pareil, ce truc-là. Alors, tous les artistes ont peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Mais moi, c'est le moindre truc, je me dis. Et en fait, du coup, je mets beaucoup d'enjeux sur tout ce que je fais. Je viens ici, je m'assois, je me dis potentiellement, je peux détruire ma carrière si je dis un mot qui n'est pas en accord avec ma pensée. Mais par contre, très étrangement, si je dis un mot qui est en accord avec ma pensée, que ça détruit ma carrière, je suis prêt à mourir comme ça, tu vois, à me dire, je sacrifierai tout, tu vois, j'ai ce truc un peu épique dans ma tête.
Et oui.
Mais si je dis un truc qui ne correspond pas à ma pensée parce que j'ai mal prononcé ma phrase, je me suis mal exprimé, ça serait terrible, tu vois, c'est bizarre. Hein.
Ça t'est arrivé?
Non. Pour l'instant, non. Des fois, je me suis trouvé maladroit en interview. Enfin, je suis pas fan de tout ce que j'ai dit. Je trouve pas que tout ce que j'ai dit est incroyable. Mais des fois, j'ai été maladroit. Un des trucs qui a le plus marqué les gens qui me connaissent, c'était quand je me suis disputé avec Manuel Valls à propos notamment des attentats et de Ali Bongo et tout ça, tout ça. Je suis assez maladroit en réalité quand je réécoute l'interview. Il y a des trucs que je dis où je suis plutôt maladroit. Mais ça tourne en ma faveur et les gens comprennent très bien ce que je dis parce que c'est tellement dit avec le cœur. Je suis tellement sincère quand je parle que les petites maladresses ou les petits raccourcis que je fais, personne ne peut me les imputer, tu vois.
Pourquoi t'es allé sur TPMP et pourquoi tu es parti?
Parce que, en fait, moi, j'étais en Demande qu'à en rire, mais c'était il y a 10 ans, on parle de ça, c'était il y a 10 ans TPMP. Donc, j'étais en Demande qu'à en rire et ça se passait bien. Et puis, bon, j'avais quand même fait un petit peu le tour d'On Demande qu'à en rire. Et puis, je vais faire une promo chez Cyril Hanouna et ça se passe bien, on rigole bien, etc. La promo se passe bien. Et puis c'était le début de TPMP, et il y avait une espèce de guerre à ce moment-là des access, où il y avait, il y avait un truc sur France 2 avec Sophia Aram, je crois, ils essaient de relancer le grand journal sur Canal, et TPMP, c'était le début où TPMP commençait comme ça à totalement exploser. Et donc je vais faire cette promo, on s'entend plutôt bien avec Cyril, on rigole bien, et puis je sais pas, on se parle, puis il me dit tu pourrais venir de temps en temps faire une chronique et tout, et je me rappelle à l'époque, je lui dis mais tu sais, je regarde pas l'émission me plaît pas du tout, et lui ça le faisait marrer, il me dit tu le diras à l'antenne. Je dis ah bon, je me suis dit putain, si j'ai cette liberté là, c'est cool. Et puis j'aimais bien, moi je regardais pas l'émission, mais j'aimais bien parce que je trouvais qu'elle avait un ton de liberté, et de on se prend pas la tête. On se prend pas au sérieux, on se prend pas la tête. Les premiers trucs que je fais dans TPMP, c'est ça. Moi, je me rappelle une des premières vannes, c'est Jérémy, vous n'avez toujours pas regardé l'émission? Ah, je dis, ah non, elle est abominable cette émission. Et tout le monde rigolait. Tu vois, donc moi, à partir du moment où je suis en phase avec moi-même, et, tout va bien. Et j'ai arrêté parce qu'au fur et à mesure, mon humour, j'étais très, 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 très rentre-dedans, très, 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 très provoque. Et au bout d'un moment, je sentais que mes phrases commençaient à un peu gêner tout le monde. Je sentais que l'émission évoluait dans un sens et moi j'évoluais dans un autre. Et j'étais d'ailleurs aussi à la radio avec Cyril. Hein, et il prenait une direction qui n'était pas la mienne. Et donc je sentais qu'il n'assumait plus mes propos. Donc de là, on a eu une discussion avec Cyril. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses et tout. J'ai dit bon, j'ai dit là en fait vous commencez à plus rire, vous commencez à vous excuser de mes vannes en sortant. Donc ça sert à rien, tu vois. Je vais vous desservir, vous allez me desservir. Donc on s'est arrêté là. Et je suis retourné travailler avec Laurent Ruquier, d'ailleurs. J'ai fait l'émission pour tous, je crois. Puis ça s'est arrêté là. Mais c'était quelques mois. Après, le début, c'était plutôt chouette. Hein. Les premières émissions étaient cool. Après, quand l'animateur, tu le fais plus rire, c'est mort, en fait. Parce que le public est là, il regarde d'abord l'animateur. Si tu fais plus marrer le mec qui t'invite, ça marche plus. Donc il valait mieux arrêter avant que ça tourne en drame, tu vois. Et puis de toute façon, c'était pas plus mal parce que j'en avais un peu marre de la télé. Moi, j'avais fait tellement de sketchs en Demande qu'à en rire. J'avais envie aussi d'arrêter un peu la télé, de me concentrer sur la scène. Tu vois, d'ailleurs, j'y suis pas retourné, ni en télé, ni en radio. On m'a proposé plein de fois, mais ça prend tellement de temps d'écrire des. Déjà, j'aurais plus le temps. Et puis le problème aussi, c'est que quand tu dois écrire quotidiennement pour quelque chose, tu peux perdre aussi un peu en objectivité. parce que t'as pas toujours un avis sur tout. Tu n'as pas toujours un avis sur tout. Je veux dire, faut quand même être honnête. T'as pas toujours un avis sur tout, quoi. Et en fait, le problème, c'est que si t'es tous les jours à la radio, faut que tu donnes un avis sur tout. Moi, il y a des sujets, des fois, je me dis, je peux pas vous répondre. D'ailleurs, je m'autorise ça maintenant en interview, tu vois. Il y a des interviews, parfois, ils te disent, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et un jour, en fait, j'avais pas d'avis. Et j'ai senti le stress monter. Je me suis dit, mais pourquoi je stresse? En fait, j'ai le droit de pas avoir d'avis, en fait. J'en ai rien à foutre, j'ai le droit de pas avoir d'avis. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, bah, vous savez quoi, je sais pas. J'ai pas d'avis. Vous faites un refus d'obstacle? Non, j'ai pas d'avis. Parce que j'ai plein d'avis différents qui me viennent dans ma tête, j'ai pas fait un choix dans ma tête. Donc on en reparle si vous voulez dans 2 mois, vous me laissez réfléchir. Voilà. Et donc c'est pas plus mal, quoi. Et puis honnêtement, j'aime la télé, tu vois, je fais les duos impossibles, je prépare des nouvelles émissions avec Canal autour de l'improvisation, mais ça reste de l'artistique, quoi. Et c'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est là où je me sens le mieux.
C'est quoi ta plus grande déception?
Ma plus grande déception, c'est des trahisons amicales. Ouais, c'est ça. C'est des gens. Moi, j'ai plein de défauts. Hein. Je suis pas quelqu'un de facile. J'ai plein de défauts, etc. Mais si je te dis quelque chose, je le fais, quoi. Et enfin, je sais pas. J'ai une espèce quand même de fidélité. J'ai des amis d'enfance, par exemple, à qui j'ai pas vu là depuis quelques années. On s'entendait plus et à qui j'ai toujours dit là, je peux plus te voir parce que tu me fais trop de mal. Mais si un jour ça va mieux, si un jour tu sens ça, la porte est ouverte. Et ces gens peuvent revenir 20 ans après, la porte sera ouverte. Je suis vraiment comme ça. J'accepte quelqu'un qui m'a fait du mal et qui s'excuse, tu vois, qui me dit je suis désolé. J'accepte ça, je suis très sensible à ça. Moi, je peux monter comme ça. Si tu t'excuses, je redescends immédiatement et je te pardonne. Et presque, enfin, tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à s'excuser, qui arrivent à faire marche arrière, tu vois, à dire putain, je suis désolé, tu vois, j'étais pas lucide, etc., etc. Et du coup, la trahison, la vraie trahison, celle où vraiment on va te faire du mal pour de l'argent, on va mentir. Ça me terrasse, en fait. Ça, c'est un truc qui est vraiment... Après, tout le monde, je crois. Hein. Mais mes plus grosses déceptions, c'est ça.
Et ta plus grande peur?
C'est de ne pas atteindre tous mes objectifs professionnels. Si je suis totalement honnête, mes plus grandes peurs, c'est de ne pas atteindre mes objectifs professionnels.
Quels objectifs il te reste?
Je veux continuer à avoir autant de monde dans mes salles, parce que... Si je peux en avoir encore un peu plus, tant mieux. Je sais pas si c'est peu. Je pense qu'on atteint un truc là. Je pense que j'aurais plus le temps de façon de faire plus de tournées. Donc bon, on doit pas être loin de la vérité. Le cinéma, j'espère. Là, je suis très content parce que le cinéma démarre comme je voulais. J'ai été dur au cinéma parce que j'ai refusé plein de trucs qu'on m'a proposé parce que je voulais arriver. Tu vois, en fait, comme ce que je fais, c'est très iconoclaste sur scène. Je voulais pas arriver dans des choses trop évidentes. Tu vois, donc on m'a j'ai pas été snobé par le cinéma, on m'a proposé plein de trucs et tout ça, et c'est moi qui suis resté un peu en retrait parce que je me suis dit soit je veux montrer que je suis d'abord moi à la base je suis comédien, tu vois, après j'ai tout de suite voulu faire du one man et c'est bon, mais à la base je suis comédien, donc je voudrais montrer que je suis comédien et je voulais qu'on me propose des choses originales, tu vois, et j'ai refusé des films qui étaient cool mais juste parce que je trouvais que le rôle que j'avais à défendre était pas je voyais n'importe qui le faire à ma place, donc tu vois, j'étais pas, et comme j'ai la chance de pas avoir besoin de ça pour payer mon loyer, je me suis dit, je veux pas me jeter sur le cinéma en me disant eh ben je veux juste exister au cinéma, tu vois, ah ben donnez-moi un rôle, je veux juste exister, je veux juste qu'on me voit. Tu vois, je voulais pas là. J'ai eu la chance de rencontrer Saïd Beltibia qui fait partie du collectif Courtragemé, qui m'a proposé mon premier grand rôle au cinéma dans un film qui va sortir là au printemps, où j'ai joué avec Golshifteh Farahani. Quand je me suis retrouvé sur le tournage avec Golshifteh Farahani, c'est Courtragemé, hein, donc toujours un univers très social, très sombre. Saïd a traité un truc, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas sur le film, donc je vais pas trop m'avancer, mais bon, c'est du Courtragemé, on reconnaît bien la patte de Saïd Beltibia, et quand je me suis retrouvé là en train de jouer ce personnage très sombre et très complexe, et qu'il y avait Golshifteh Farahani en face de moi, j'ai dit j'ai quand même bien fait d'attendre quelques années, tu vois, et que ce film fasse 50 000 entrées ou 1,5 million d'entrées, honnêtement, je serais content pour l'équipe et pour Saïd, mais je m'en fiche, c'est juste qu'en fait, je me suis juste dit putain, c'est cool, il y a un mec qui m'a vu en tant qu'humoriste et qui m'a fait confiance pour aller affronter un rôle si sombre et si dark. Et ça, c'est chouette parce que qu'on aime pas le film, on va me voir dans quelque chose dans lequel on m'a jamais vu. Et puis là, maintenant, je travaille sur une comédie qu'on est en ce moment en train de la financer. On espère tourner dans quelques mois. Une comédie que j'ai écrite. Et puis là, il y a de plus en plus de projets qui commencent à être vraiment intéressants. On commence à me proposer des trucs cool. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait l'audace de me proposer des trucs dans lesquels on m'imagine pas forcément au départ. Et puis, évidemment, des comédies. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, les comédies qu'on m'a, les rôles qu'on me donnait sur les comédies, même si je trouvais que les comédies étaient drôles, rôle. Les rôles que j'avais sur les comédies, c'était pas les persos sur lesquels je m'amusais le plus. Donc j'ai dit, mais celui-là, il est pris de rôle. Ouais, celui-là est pris. Ouais, bah, genre, je fais pas là. Tu vois. Mais voilà.
Mieux
donc,
reste
ça, c'est
de
un...
créer ses propres rôles. C'est
non, mais ça, c'est un nouveau terrain de jeu. C'est, tu vois, là, pour le coup, c'est même pas de l'ego. C'est que je suis vraiment, je pense, à la base, je suis vraiment la base de ce que je suis, c'est être un créateur. J'écris. C'est ça mon travail de base. Et là, c'est un nouveau parc d'attractions. Donc, ça serait, je serais très frustré, très triste de pas pouvoir aller faire des choses dans ce domaine-là, parce que c'est encore un nouveau jouet, tu vois, pour moi.
On va finir par où on a commencé. Tu vas nous dire pourquoi t'arrêtes tes études à 16 ans?
J'ai arrêté mes études à 16 ans parce que j'étais extrêmement malheureux à l'école et que j'avais fait un deal avec mes parents. Elle dit, si je suis pris au cours Florent, ma mère voulait absolument que j'aille jusqu'au bac. C'est cette grande phrase, hein, tu sais, cette grande phrase de va au moins jusqu'au bac. Bon. Enfin, toi, t'as fait des hautes études, toi, je crois. Donc, toi, t'as continué. Mais bon, moi, j'avais dealé jusqu'au bac. Ça se passe vraiment très, très mal à l'école. Et ma mère me dit, écoute, si t'es pris au cours Florent, tu pourras arrêter l'école avant. Si tu veux. Mais ma mère, elle est maligne parce qu'elle sait qu'on peut pas trop prendre les élèves avant 18 ans au cours Florent, tu vois. Donc elle se dit, bon, je prends pas un risque énorme. Et puis je vais faire les auditions. Je suis reçu par François-Xavier Hoffmann qui m'auditionne et qui me dit, t'as quel âge et tout. Donc j'avais 16 ans. Ben, j'ai 16 ans. Puis il me dit, mais.
Tu mens pas.
Non. Bah, de toute façon, à un moment donné, ils vont voir ma carte d'identité.
Photoshop, peut-être, donc, à l'époque, ouais. C'était pas ce que c'était.
Mais... Oui, mais non, écoute, ça m'a pas traversé l'esprit de mentir. J'ai dit, non, j'ai 16 ans et tout. Il me dit, tu sais qu'on peut pas rentrer en étant mineur et tout ça, machin. Il me dit, mais si tes parents sont OK, on fera une dérogation. Et donc, je suis rentré en disant à ma mère, bah, voilà. Et donc, mes parents, mon père et ma mère, qui ont beaucoup d'honneur et de parole, on dit, bon, bah. Ma cité prise.
Et ma merde.
Bah, part. Hein. Et donc j'ai arrêté l'école. Et ils ont été super parce que mon père, je me rappelle le jour où mon père m'a dit que je pouvais arrêter parce que du coup je crois que j'étais genre en janvier ou en février, je sais plus exactement. Puis donc je reprenais en septembre l'année après. Donc on voyait plus trop l'intérêt de continuer à m'envoyer en cours pendant 3-4 mois parce que c'était vraiment très dur pour moi dans ma tête. Et je me rappelle toute ma vie, j'étais rentré à midi, je sais pas ce que je faisais chez moi à midi, et je me rappelle toute ma vie de mon père qui m'appelle et qui me dit Jérémy. Et je descends et il me dit, bon, bah voilà, on a vu avec ta mère, si tu peux, t'es pas obligé de continuer.
Parce que la fin de l'année, quoi.
Jusqu'à la fin de l'année. Quoi. Je suis tellement cool.
Tu ressens quoi, là, à ce moment-là?
Ah, une libération énorme. Une libération énorme. Hein. Un poids énorme qui s'enlève de ma poitrine. Après, mon père, il m'a dit, mais bon, je veux que tu t'occupes, donc voilà, il faut que tu fasses des choses, je veux que tu fasses du sport, il faut que tu trouves un truc à étudier. J'ai dit, ok, je vais trouver. Donc, j'ai acheté des livres d'informatique, je me suis mis à faire du piratage à la maison. Avoir des c'était à l'époque
très productif
où,
cette fin d'année.
Bah écoute, il fallait que je fasse un truc hein, donc tu sais, c'était à l'époque où on avait encore les abonnements Wanadoo, hein, tu sais, les à 50 heures par mois. Ma mère elle comprenait pas, elle disait, mais t'as toujours du forfait, t'es tout le temps dessus, parce que j'avais trouvé des copains pirates et alors on faisait des faux abonnements et tout. Voilà, je me suis occupé comme ça en faisant de l'informatique. Pas à très haut niveau, hein, parce que ça demandait une concentration que je n'avais pas, mais enfin voilà, je me suis amusé pendant quelques mois, je fais du sport et puis après je suis allé cours Florent.
Mais c'est marrant parce que le sport, je trouve que ça demande beaucoup de concentration.
Oui, mais comme je... C'est, en fait, c'est pas un problème d'être concentré si physiquement je suis en action.
D'accord.
Ce qui est dur, c'est de... En fait, comme je dois lutter contre mon problème d'attention et le problème d'intranquillité de mon corps, c'est ça qui est difficile. Donc c'est très dur pour moi d'être comme ça et comme ça. Et la plupart du temps, ça se traduit en endormissement. Parce qu'en fait, quand tu dis à mon cerveau, t'es en cours, tu n'as pas le choix. Je peux rien faire d'autre, eh ben je m'endors. En fait, mon cerveau, il se met en off. Donc, il me dit, bah, c'est tout, on va dormir.
Il prend cette tranquillité pour l'état de sommeil.
On peut rien faire d'autre qu'écouter la prof d'espagnol ? Oh non, bah, on va dormir alors, à la place. Voilà. Mmh. En gros, c'est un peu comme ça que ça se traduit dans ma tête.
J'ai quelques dernières questions pour toi.
Il n'y a pas de problème.
C'est quand la dernière fois que tu as eu une première fois ?
Mais j'ai des premières fois tout le temps. Là, c'est ça qui est génial avec la scène. Ah, pour le coup, en plus, je le dis vraiment pas comme un bon mot. Hein.
Alors, la dernière qui t'a marqué?
Juste que j'allais parler du trio, parce que c'est la première fois qu'on ouvrait notre billetterie à trois, etc., etc. Mais non, on l'avait déjà fait il y a 10 ans, mais bon, c'est vrai que j'avais moins de souvenirs. Donc, tu vois, spontanément, j'allais te parler de ça. Mais en fait, c'est un métier où il y a tellement tout le temps de rencontres, de trucs, de... tu vois, en plus j'ai la chance de faire tellement de trucs différents que tu vois, tu sors un bouquin, tu te retrouves dans un salon du livre. Moi je travaille aussi avec des humoristes en Afrique, donc je pars en Afrique faire des émissions avec eux. Après je vais aux Grosses Têtes, je me retrouve avec Roselyne Bachelot dans le train à parler pendant deux heures, hein. Et après je suis là, je suis avec toi, et après je vais jouer à Bordeaux, et je vais encore rencontrer d'autres gens, et je vais encore vivre des trucs sur scène ce soir qui va être tellement différent. Et après je vais voir un de mes artistes jouer sur scène, et ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé. Et après je vais aller avec Florence Foresti, Baptiste et Arnaud écrire un sketch chez elle. Et après, donc en fait c'est exactement pour ça que j'aime cette vie, même si elle me fatigue parfois. C'est qu'elle est, c'est qui, c'est tous les jours des choses différentes. Tous les jours c'est les premières fois, il y a pas une seule journée qui n'est pas différente de l'autre, quoi. Et donc vraiment je suis sincère, c'est pas pour faire un bon mot, pour faire un reflet d'obstacle à la question, mais j'ai l'impression que j'y étais première fois tous les jours, quoi.
Réponse acceptée.
Bon, c'est gentil.
Si jamais tu pouvais recommander une ressource, ça peut être un livre, un film, un spectacle qui t'a particulièrement marqué aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ?
Ah, y a tellement de trucs. Déjà, les spectacles, faut absolument y aller. Parce qu'il se passe quelque chose dans une salle de spectacle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est très important d'ailleurs, des spectacles. Moi, le film qui m'a le plus marqué, le plus appris de choses, c'est Le Grand Bleu. C'est un film que je trouve totalement fascinant, parce qu'il y a un truc qui relève du génie dans la construction des personnages, parce que tu as Jacques Mailhol, qui est une espèce de, il est plus que passionné, il est tout son être, tout son corps doivent être sous l'eau. Ce qui fait quand il est en surface, c'est là où il respire le moins bien. Mais bon, il doit vivre aussi, alors il essaye d'être amoureux, il l'est peut-être un peu, on a du mal à savoir vraiment, il l'aime, mais pas autant que l'océan. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui est passionné par l'océan, mais qui est moins... Je suis pas croyant, mais comme si on lui avait donné moins d'éléments pour être sous l'eau. Donc lui, bizarrement, il aime plus la vie que l'océan, mais c'est un vrai passionné de l'océan. Et il est battu par l'autre. Tu vois, il y a une espèce de truc très injuste, en fait, et très juste en même temps. C'est-à-dire qu'il a plus de talent que toi, mais il est très malheureux et bon, semi-dépressif, on sait pas trop. En tout cas, c'est pas la grande forme. Et d'un autre côté, l'autre, toi, t'arrives à... Toi, on t'a donné la capacité à aimer cette vie, mais tu vas aller un peu moins profond que lui. Tu vas aller profond parce que t'as du talent, mais t'iras un peu moins profond que lui parce que quand même, voilà. Et puis t'as Rosanna Arquette qui va tomber éperdument amoureuse de ce mec et qui va le laisser aller au fond de l'eau parce que elle l'aime tellement qu'elle préfère qu'il aille rejoindre l'endroit dans lequel il est le plus heureux, même si c'est là où il meurt. Enfin, il y a quelque chose. Et en même temps, tout ça est marqué de la vie de cette nana qui vit à New York dans un truc très très rapide qui ressemble un peu à la vie parisienne. Et de l'autre côté, on a Enzo Molinari qui lui vit dans un petit village en Sicile et qui vit la douceur de tout ça est concentré dans l'océan, quoi, qui est un monde où cohabitent la vie et la mort, la lumière et la noirceur, le chaud et le froid. Donc il y a quelque chose dans ce film, moi, qui me bouleverse totalement, en fait. Il a réussi à faire un truc qui, j'ai l'impression d'avoir tous les éléments de la nature, de l'homme, des hommes au sens large du terme, de l'âme humaine, de la passion, de la folie, de l'inexplicable, il y a un truc dans ce film qui me voilà, et il faut le regarder comme moi 190 fois pour bien bien tout comprendre. Mais non, mais je suis très honnête, je peux conseiller que ce film parce que ce film, je trouve qu'il nous en apprend beaucoup. Voilà.
Si tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, sur ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre ?
Écoutez, il y a quelques artistes que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer. On serait peut-être l'occasion de les connaître mieux. J'aime beaucoup M. Je sais pas si tu l'as eu. J'aime beaucoup Aurel San. Je sais pas si tu l'as eu. Bon, y en a d'autres, hein. Des acteurs.
Non, c'est bien
j'aime
déjà, beaucoup. C'est de recours.
Ouais, voilà. M et Aurel San, parce que c'est vraiment des gens, tu sais, c'est des gens de qui tu te sens proche sans les avoir vraiment rencontrés. Et on a beaucoup d'amis en commun. C'est très frustrant, M et Aurel San, parce qu'on a vraiment beaucoup d'amis communs. Et qui nous disent, putain, il faut absolument vous rencontriez, parce que vous dites les mêmes choses et tout. Et on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Donc voilà, ce sera l'occasion de les découvrir un peu mieux. Voilà.
Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Être capable de tous les sacrifices et de toutes les abnégations pour devenir ce qu'on veut être. Parce que c'est la plupart du temps, c'est ça qui manque aux gens. Parfois, ils ont le courage, mais ils n'ont pas la discipline. Parfois, ils ont le courage et la discipline, mais ils n'ont pas l'abnégation. et la ténacité. Parfois, ils ont les trois, mais ils n'ont pas la ténacité. C'est-à-dire, ils ont dit, j'ai mis tout ça, mais ça ne marche quand même pas. Mais essaye encore. Tu sais, il y a un truc que j'aime bien raconter. Je pense que ça sera beaucoup trop long, mais j'y vais quand même.
T'as compris l'esprit de ce podcast, c'est très bien.
C'est une histoire que j'ai dite une fois en stage de théâtre, parce que j'aime bien aussi donner un peu des cours et tout ça. Quand j'ai un peu de temps, j'aime bien le faire. On va imaginer un fleuve quelque part dans une ville. Et alors, y a un mec, tous les matins, de 5h à minuit, il va pêcher au même endroit. Mais tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il est là tous les jours. Et il n'attrape jamais, 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 mais jamais rien. Jamais. Mais pas un petit rien du tout. Et il fait pas ça pendant 6 mois, il fait ça pendant 2 ans, 3 ans. Alors, les 2-3 premières années, on va dire, putain, il est courageux, t'as vu le pêcheur, on va commencer à le remarquer, et puis alors au bout de 5-6 ans, on va dire, mais vous l'avez déjà vu attraper un truc, ce mec, je crois, il a jamais attrapé, non, mais non. Alors, les gens ont commencé à s'intéresser à lui, vous avez attrapé quelque chose? Non, jamais, jamais. Et puis alors, au bout de 7-8 ans, on va commencer à se foutre de sa gueule, au bout de 10 ans, on va commencer à dire que le gars est fou. En fait, c'est le fou de la rivière. On va l'appeler, on va commencer à lui donner un nom, tu vois, le fou de la rivière ou je sais pas quoi. Et juste tout le monde va penser que ce mec est fou, parce qu'il vient tous les jours. Si au bout de 10 ans, il s'arrête, alors ça sera toujours le fou. Et quand on le verra passer, ben c'est le fou, là, qui est tous les jours au bord de la rivière. T'as. Et si au bout de 10 ans et un jour, il sort le plus gros brochet ou le plus gros silure ou le plus gros cendre qu'on ait jamais vu au monde, on dira ce mec est un génie. Et c'est ça la ténacité. C'est que du jour au lendemain, ta vie bascule totalement, juste parce que t'as dit « je vais tenter encore un peu ». La ténacité, pour moi, c'est vraiment ça.
Et quelle différence tu fais entre la ténacité et l'obstination? Est-ce que tu crois pas parfois que s'obstiner, c'est contre-productif?
Pour moi, dans l'obstination, il y a un manque de lucidité, et donc un peu trop d'ego. Il faut aussi être conscient de ce qu'on est. Ça, c'est très important. Mais si tu arrives à analyser ce qui se passe autour de toi, si tu n'arrives pas à te rendre compte que ce que tu fais est moins bien que ce que fait quelqu'un d'autre, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, tu vois. Mais il faut savoir où tu te situes, quand même. C'est très important. Parce que si tu manques de lucidité sur qui tu es et sur ce que tu fais, évidemment, ça, tu vas perdre un petit peu ton temps. Mais regarde, moi qui manque cruellement de confiance en moi sur 1,5 milliard de choses, je me disais quand même, oui, mais quand même, j'ai du talent, je vais y arriver. Tu vois, tu le sens quand même au fond de toi.
Et puis je pense que la finalité peut rester la même, mais c'est juste une question d'essayer de différentes manières. Je pense que c'est souvent la manière qui pose problème, pas forcément le rêve en soi.
Oui, voilà, c'est en réalité, quand je parle de ténacité, c'est aussi quel est ton rêve, c'est quoi ton objectif. Il y a 1000 manières d'arriver au même endroit. Mmh. L'important, de toute façon, on recherche tous quoi? Une espèce de sérénité, une espèce de bonheur, une espèce de fierté. Bon, voilà, donc après, si tu as de la fierté... En fabriquant des chaises, il faut aller fabriquer des chaises. Si ta fierté, c'est d'être sur scène, il faut aller sur scène. Voilà. Et puis après, la réussite ne rime pas non plus forcément avec fierté. Je veux dire, t'as des gens, moi je connais plein de gens dans ce métier qui sont pas des stars et qui sont très heureux, tu vois. C'est pas synonyme, tu vois.
Merci Jérémy. Merci. Franchement, je pourrais continuer longtemps. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent toujours, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller te voir en spectacle, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Alors là, toute la tournée est complète.
Il n'y a pas une date qui a été rajoutée, là, le 10 mars?
Non. En fait, on a fait une petite surprise aux gens. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le 9 et 10 mars, je suis à Bercy. Et comme il y avait encore plein de gens qui avaient envie de voir le spectacle, on a décidé de rediffuser en direct le spectacle. Donc, c'est vraiment chambé. Je suis hyper content parce qu'en fait, les gens, ils vont pouvoir aller dans leur salle de cinéma. Donc, pour l'instant, il y a 250 salles qui proposent. Ça va encore certainement grandir. Donc, c'est aussi aux gens de checker leur cinéma, voir s'ils proposent. Mais donc, ils vont sur jeremyferrariaucinema.com. Ils tapent leur ville et ils vont avoir un cinéma dans lequel ils pourront vivre en direct Bercy. Ce qui fait que le 10 mars à 17h, ils vont dans leur cinéma et ils assisteront à ma dernière à Bercy en direct. Je trouve ça.
C'est ingénieux.
Tu sais ce que j'ai trouvé le plus génial? C'est que quand les. Parce que c'est Pathé qui organise ça, mais c'est pas que dans les cinémas Pathé, ça je le précise. Et je dis, mais comment vous allez faire pour diffuser mon spectacle en direct dans toutes ces salles de cinéma? Ils m'ont dit. On va louer un satellite.
Ça tue, ça.
Alors là, tiens, mon ego, il a fait... Oh, attends,
ça, la dernière fois que t'as eu une première fois, c'est ça. C'est louer un putain de satellite, quoi.
Bien sûr. On m'a annoncé qu'on allait louer un satellite pour mon spectacle. Ça, je trouve ça génial. Parce qu'à part Elon Musk, il n'y a pas grand monde qui attend ça dans sa vie.
Ouais.
on va louer un satellite.
J'adore.
Voilà, ça c'est super. Donc pour financer la location de ce satellite, veuillez vous rendre sur Jérémy Ferrari au cinéma.com pour aller voir. Non, mais je trouve ça génial d'aller voir le truc. En plus, on a fait des tests parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. On a mis mon spectacle dans des écrans de cinéma avec le son et tout. Pourtant, c'était pas un direct. C'est incroyable. Parce qu'en fait, comme t'es assis comme ça au milieu de plein de gens, t'as vraiment l'impression que t'y es, quoi. Je trouve ça vraiment chambé comme truc.
C'est immersif, quoi.
Je le ferai pas à chaque spectacle. Après, les gens, ils diront, on va attendre qu'il passe au cinéma. Donc, évidemment, je vais faire exprès, je le ferai pas à chaque spectacle. Mais sur celui-là, je trouvais ça super. Puis à Bercy, ça va être incroyable.
Écoute, je mettrai le lien dans les notes du podcast avec ton Insta. Et puis, écoute, j'espère à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Jérémy, déjà. Je pense qu'elle lui ferait très plaisir. Et à nous taguer en story, @JérémyFerrari et @MyBetterSelf. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.